This meeting is being recorded.
Alors, bon bah merci pour l'invitation, du coup. J'ai la chance de répondre, d'enregistrer ma réponse. Je suis la docteure Anna Balège, pas le docteur Anna Balège. Je crois à la circulaire de féminisation des noms de métiers. Je crois au rapport que vient de nous pondre le Haut Comité à l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout un tas de recommandations vachement intéressantes sur l'écriture inclusive et une écriture plus égalitaire. Et donc, je suis la docteure Anna Balège. Ça, c'est les titres formels. Je suis quelqu'un qui utilise le genre féminin. Je suis une personne transféminine, pour être plus précis. Je suis médecin, je suis psychiatre, je suis sexologue. Actuellement, je suis doctorante en santé publique à l'université de Tours sur la question de la promotion de la santé des personnes trans. Je fais de la recherche en santé. Je m'intéresse à la recherche avec ce qu'on appelle un regard critique. Donc, je fais ce qu'on appelle des études critiques. J'ai une vie à côté de ça, enfin, ça en fait partie un peu. Je suis chômeuse au Pôle emploi de Bourdin. J'ai joué longtemps aux jeux vidéo, j'ai arrêté. J'écoute des musiques extrêmes et je fais des voyages et j'ai fait du basket quand j'avais 12 ans. Je ne sais jamais quels sont les éléments les plus importants à sortir. Qu'est-ce que je mets d'autre d'habitude? Oui, je suis Sagittaire, ascendant Gémeaux. Ok. Non, mais c'est important parce que ça veut dire qu'il ne faut pas me côtoyer. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire. Donc, moi, je suis invité à parler ici, j'ai de la chance. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà travaillé plusieurs fois. J'ai déjà travaillé là-dessus dans le cadre de ma thèse de médecine, ma thèse d'exercice de médecine, qui était sur la question de la dangerosité et la question de la privation de liberté. J'ai aussi travaillé dessus après par la suite parce que j'ai fait plusieurs travaux sur ce qu'on appelle l'épistémologie. Donc l'épistémologie, c'est l'étude, logie, c'est l'étude, et épistémo, c'est le savoir. Donc c'est l'étude des savoirs, c'est les gens qui vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on sait ça, pourquoi on ne sait pas autre chose, d'où ça vient, et ces choses-là. Et notamment, j'ai travaillé sur comment est-ce que ce qu'on discute aujourd'hui a été appliqué aux personnes trans, c'est-à-dire les différentes histoires et les différents regards que les corps médicaux ont pu avoir et ont pu faire sur les personnes trans. Donc l'idée, juste pour situer un petit peu la méthode et d'où je parle, hein, j'explique ça pour pas croire que je raconte des vérités. Je suis pas quelqu'un qui sait plus de choses que les autres et sûrement pas plus de trucs vrais. C'est juste pour dire, c'est un point de vue qui est très très situé, hein, c'est mon point de vue. C'est un point de vue qui vient d'une expérience personnelle, d'une expérience professionnelle, de travaux de recherche qui essayent d'accrocher tout ça ensemble. Je prétends pas avoir raison. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de réfléchir. Et ça, c'est une idée fondamentale de ce qu'on utilise quand on fait un abord qu'on appelle un abord critique. Un abord critique, le but d'un abord critique, c'est de montrer comment est-ce que les choses peuvent s'interconnecter. Comment est-ce qu'en fait, à partir de choses qui n'ont pas forcément l'air d'être reliées, on peut créer une histoire unique et on peut arriver à montrer comment toutes ces choses-là vont ensemble. Le risque d'un abord critique, c'est de faire des liens qui ne sont pas les bons ou qui sont à côté de la plaque. L'intérêt d'un abord critique, c'est de pouvoir avoir du recul sur des choses parce que sinon, on est tout le temps le nez dans le guidon. Et les êtres humains, quand on s'intéresse à quelque chose de compliqué, on a souvent tendance à le découper en petits morceaux simples. Et après, on s'intéresse uniquement à notre petit morceau et on oublie complètement qu'il y a tout un autre bazar à côté et que tout ça, en fait, ça marche ensemble. Et l'idée d'un regard critique, c'est l'idée de prendre un petit peu de distance. Du coup, moi, un regard critique, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi quand j'étais en interne en psychiatrie, quand j'étais encore en formation de psychiatre. Et je pense que ça s'impose à un peu tout le monde qui arrive en santé mentale, en psychiatrie. C'est-à-dire que c'est choquant ce qui se passe, c'est pas évident, c'est pas naturel. Il y a quelque chose qui grince dans les roulements quand on voit ce qui se passe. Et donc, du coup, on va avoir d'un côté des gens qui vont être dans l'acceptation en disant, bah, OK, apparemment, c'est comme ça que la réalité existe et je vais suivre ça. Et des gens qui vont être, au contraire, dans l'espèce de, bah, ce qu'on va appeler critique. C'est-à-dire de dire, je vais faire un pas de côté. Je vais me dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Pourquoi ça? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi est-ce qu'on me raconte ça? Et donc, l'idée d'un regard critique, c'est celui-là. Après, l'objet d'étude, c'est-à-dire de quoi on parle? On parle de l'histoire des pensées psychiatriques, de l'histoire des idées psychiatriques, de dire comment ça se fait qu'on voit les êtres humains comme ça, comment ça se fait que des fois on se voit soi-même comme ça, comment ça se fait qu'on voit des gens qu'on aime comme ça, alors que vraisemblablement, c'est pas quelque chose qui est intuitif et c'est pas quelque chose qui est bénéfique non plus. Parce que quelque part, si on est dans l'espèce d'avoir un regard critique, c'est parce qu'on est quand même dans l'idée de se dire que c'est pas parfait, voire même c'est nul. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire comment ça se fait qu'on voit les choses comme ça. Et alors, je voulais commencer pour essayer d'illustrer ce problème, parce que c'est un problème qui est compliqué, mine de rien, ça fait quand même un moment que les gens sont dessus. Je voulais prendre un autre problème social qui ressemble, mais qui n'est pas exactement le même, pour voir si ça permet de réfléchir un petit peu plus facilement. Et le problème social que je voulais prendre, et qui est assez simple à l'étude, c'est les tâches ménagères dans les couples hétérosexuels cisgenres. Donc, un couple hétérosexuel cisgenre, c'est ce qu'on appelle un monsieur et une madame qui s'aiment très fort et qui vont construire un foyer ensemble ou une vie commune. Et vivre, ça inclut un certain nombre de tâches ménagères. Et ces tâches ménagères vont être pool ensemble dans un pool commun de tâches ménagères. Et du coup, il va y avoir la question de se dire, OK, on est deux, comment est-ce qu'on résout ce problème? Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans ces sociétés où il y a des genres et des gens et des rôles, et où tout le monde marche en complémentarité, à peu près 70 à 80% des tâches ménagères sont faites par les femmes. Et il y a tout un discours sur les femmes, les droits des femmes, et patati patata, mais si vous revenez il y a 10 ans, c'était déjà 80%, et si vous revenez 25 ans avant, c'était déjà 80%. Et en fait, ça fait 35 ans quasiment que la part de répartition des tâches ménagères n'a pas bougé. Et qu'on a quasiment la même répartition ménagère. Et les quelques petits changements qu'il y a eu sont déjà de un petit et sont très ciblés sur des tâches ménagères que les hommes choisissent de faire. Et donc, du coup, cette répartition-là, elle n'est pas intuitive. C'est pas quelque chose qui paraît normal. Et disons que si là, tout de suite, on nous effaçait la mémoire et qu'on nous mettait tous tout nus sur une île déserte, c'est pas sûr qu'on refasse la même chose. Et donc, du coup, il y a quelque chose là-dedans qui est quelque chose de l'ordre de quelque chose qu'on a construit. Et donc, du coup, j'ai des mouches sur ma webcam. C'est vivant chez moi. Il y a des chats et tout. Mais donc, du coup, en fait, cette idée de se dire, cette chose-là, c'est quelque chose qu'on a construit. Et alors, pourquoi est-ce que c'est les femmes qui font le plus les tâches ménagères? Et là, je pense que si je posais la question et si je demandais à tout le monde de mettre la réponse dans le chat, en gros, les réponses, on pourrait les ranger dans trois grandes catégories. Il y aurait les personnes qui diraient, bah, parce que les femmes, elles sont mieux équipées à faire les tâches ménagères. Il y aurait les personnes qui diraient, bah parce que c'est leur rôle, ou en tout cas c'est le rôle qu'on leur a donné. Et puis il y a une autre partie qui dirait, bah c'est parce que globalement les femmes c'est plutôt un groupe opprimé, surtout dans une relation hétérosexuelle, et donc globalement bah elles sont dominées, elles obéissent, elles font ce qu'on leur demande de faire. Et donc du coup c'est en gros trois familles de réponses. Vous avez des petites variantes à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois familles de réponses, déjà elles sont vraisemblables. Ça veut dire que là tout de suite, tous les êtres humains on partage pas la même façon de comprendre le même problème, alors qu'on est dans la même société et qu'on vit dans les mêmes espaces et qu'on partage les mêmes systèmes, on ne comprend pas les choses de la même façon. Il y a des gens qui vont penser que les femmes sont mieux équipées pour faire les tâches ménagères. Et quand je dis il y a des gens, c'est pas juste Roger au PMU. Il y a des papiers de neurosciences qui sortent quasiment tous les ans pour expliquer ça. Il y a des papiers de neurosciences qui datent de 2018 et qui vous expliquent que
Oh là
les
là.
femmes sont plus sensibles au bruit aigu la nuit pendant qu'elles dorment. Et donc, du coup, c'est normal parce qu'il faut qu'elles se lèvent la nuit pour aller s'occuper des bébés. Et donc, du coup, cette façon de penser, elle n'est pas du tout datée. Elle est toujours actuelle. Et donc, du coup, c'est un constat qui est vachement intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à expliquer, à parler de ce problème avec les autres gens dans la pièce, vous allez devoir commencer par faire un tri sur comment est-ce que ces gens voient le monde. Parce que tout le monde ne voit pas le monde de la même façon. Tout le monde ne comprend pas le monde de la même façon. Il y a des gens qui vont vous dire,
Oui,
ce que, par exemple, c'est le rôle de la femme de faire les tâches ménagères, parce que ça a toujours été le rôle de la femme. Et dans toutes les sociétés, c'est les femmes qui le font, et c'est super, et ça s'appelle la complémentarité. Et ces gens-là, ils ne vont pas donner exactement la même réponse que les gens d'avant. Ils ne vont pas dire les femmes font ça parce qu'elles sont naturellement faites pour. Ils vont dire les femmes font ça parce que naturellement, on s'organise pour qu'elles le fassent. Ce qui est très différent. Et c'est très différent, et en philosophie des sciences, c'est une autre position. En l'occurrence, ça s'appelle du constructivisme. Alors que la position précédente, c'est plus ce qu'on appelle, par exemple, pour simplifier, je fais une grande simplification, hein, c'est un sujet compliqué, donc on va faire des trucs très simples. Il y a plein de petites exceptions qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais de manière très simple, ça s'appelle de l'essentialisme. L'essentialisme, c'est penser que les choses ou les gens ou les choses du monde ont des caractéristiques qui leur sont intrinsèques. Ça leur appartient. Le constructivisme, c'est de penser que les choses du monde sont dans des systèmes qui leur donnent des rôles. Et que ces systèmes sont les systèmes du monde. C'est l'expression d'une vérité de l'univers. Les hommes ont toujours dominé. Les femmes ont toujours été soumises. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans l'ordre de... Il y a une vérité dans l'organisation sociale. Et après, vous avez le troisième groupe, les gens qui vont dire, bah, globalement, les femmes, elles font plus de merde parce qu'elles n'ont pas de pouvoir. Si elles avaient le pouvoir, ce serait les mecs qui feraient les merdes. Et donc, du coup, les gens qui vont dire ça, ils vont être dans une logique de relation de pouvoir. Et en l'occurrence, en termes de philosophie des sciences, c'est ce qu'on appelle du post-constructivisme, c'est-à-dire ce qui a suivi le constructivisme. Et ça, pourquoi est-ce que je prends le temps de mettre ces petits mots-là? C'est parce que c'est intéressant quand on essaye de lire quelque chose, une information dans nos sociétés à l'heure actuelle, on peut globalement, quand ça touche à des choses comme de la médicalisation ou de l'évidence du monde, raisonner comme ça et se dire, OK, est-ce que ce que je suis en train de lire est essentialiste? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui écrit ou qui communique dans sa tête pense que les caractéristiques sont liées aux gens? Est-ce que la personne, elle est constructiviste? Est-ce qu'elle pense que la société est organisée d'une certaine façon et que ça, il faut le maintenir parce que c'est comme ça que ça marche? Ou est-ce que la personne, elle est post-constructiviste? Et du coup, est-ce que la personne, elle est plutôt en train d'interroger des enjeux de pouvoir et des alternatives? Parce que c'est des positions qui sont des positions quand même qui sont assez différentes. Par exemple, je suis moche. Si je suis essentialiste, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a la caractéristique moche. Et quel que soit l'endroit du monde où je suis, et quelle que soit la personne avec laquelle je vais interagir, je suis moche. Alors que si je suis constructiviste, je vais dire non, moi je suis moche dans ce système. Et ce système, c'est le système de la vie. C'est pas pour dire que t'es moche, t'es comme t'es. C'est pour dire que dans nos sociétés, t'es moche. Et nos sociétés, elles sont organisées comme ça parce que c'est comme ça que les êtres humains, donc quelque part dans l'humanité, t'es moche, mais c'est pas lié à toi. C'est lié à comment est-ce qu'on voit les gens. Ça s'appelle du constructivisme. Et quand on arrive à du post-constructivisme, on va dire, bah, t'es moche, c'est extrêmement situé, c'est un jugement. En fait, c'est une question de prise de pouvoir par rapport à une question d'esthétique sociale, sur des critères qui sont basés sur ça, ça, ça. Et on va essayer de décortiquer ce truc-là. Et donc, il y a plein de façons de comprendre la même chose. Donc, maintenant qu'on a réglé un problème aussi simple que les égalités de genre dans les sociétés binaires, on va essayer de s'intéresser au sujet. Et le sujet, c'est les savoirs psychiatriques. Comment ça se fait que tout d'un coup, dans notre tête, on commence à se dire que les gens sont malades mentaux.
Voilà.
Alors, pour expliquer ça, moi, je vais, parce que mon boulot s'est surtout intéressé à ça, en fait, hein, c'est plutôt par ignorance que je m'intéresse à ça, je vais me centrer sur les deux derniers siècles, qui sont le 19e et le 20e siècle, enfin, concrètement. Donc, du coup, on va démarrer début 19. Début 19e, l'Occident, parce qu'il n'y a que ça dans le monde, hein, les autres pays et les autres cultures, on s'en fout, l'Occident traversait globalement une crise existentielle, puisque en fait, on était en train de remplacer les gens avec des couronnes par des gens avec des chapeaux. Et concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on passait d'une société qui était une société construite de manière féodale, c'est-à-dire où des êtres humains ont le pouvoir sur d'autres êtres humains, à une société qui était une société républicaine puis démocratique, c'est-à-dire une société où des êtres humains ont le pouvoir sur d'autres êtres humains, mais c'est pas les mêmes règles. Et en fait, au final, le passage d'un type de société à l'autre type de société, c'est principalement une réécriture des règles. Mais globalement, c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui sont restées au pouvoir tout le long du système et toujours les mêmes personnes qui sont restées en bas et les tâches sont globalement les mêmes. Et donc, au final, c'est une histoire, c'est tout ça, c'est une histoire d'histoire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment les gens voient le monde. Parce que si on comprend comment les gens voient le monde, on comprend comment ils écrivent les histoires du monde, et du coup,
Voilà.
on comprend comment est-ce qu'on peut les critiquer. Vous pensez que j'ai un trouble bipolaire, et quand vous dites ça, j'ai bien compris qu'en fait, ce que vous pensez, c'est que si on me découpe sur une table à l'intérieur de moi, on va trouver un trouble bipolaire quelque part. Et d'ailleurs, ça fait 2 siècles que vous découpez des gens pour essayer de les trouver, donc quelque part, vous cherchez bien ça. Et donc, du coup, ça c'est une vision essentialiste. Et la vision essentialiste, quelle qu'elle soit, elle a des failles. Et une des grosses failles de la vision essentialiste, c'est qu'elle ne rend pas compte que les gens, ils existent dans un système. Je ne suis pas tout le temps bipolaire. Je ne suis pas bipolaire quand je suis avec mon doudou, ma doudou. Je ne suis pas bipolaire quand je suis au travail. Je ne suis pas machin, je suis pas bipolaire. Je suis ça quand je suis dans un système. Et même quand je le suis tout le temps, au final, si je pars, je ne le suis plus. Donc c'est une question de place dans un système. Et donc du coup, ces visions-là, elles ont changé. On n'avait pas ces visions-là au début du 19e. Au début du 19e, on était en train de reconstruire une société parce que, en gros, les paysans n'étaient pas contents et il fallait trouver une nouvelle façon de faire en sorte que les paysans se ferment leur gueule. Et après, il y avait un jeu de pouvoir pour savoir qui allait récupérer les chaises qui étaient vides du régime d'avant. Donc nous, la France, on sort de la dictature avec Napoléon, on arrive sur le premier système républicain, et donc du coup, on se dit, OK, il va falloir qu'on organise la société. Et la société qu'on a organisée là, tout de suite, on va dire 1820, elle n'est pas très 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 différente de la société de 1780 où ça a été le bazar. n'y a pas énormément de changements, mais il y a beaucoup de changements d'esthétique. C'est-à-dire qu'on va changer les histoires qu'on raconte et on va changer comment est-ce qu'on fait les choses. Et un des gros changements qu'on a fait, c'est que comme on a supprimé les bonhommes magiques, les êtres de droit divin, les dieux, les rois, les seigneurs, les gens qui avaient du pouvoir, qui étaient magiques en fait. On a enlevé les hommes, les gens magiques et on a dit il n'y a plus de gens magiques. Maintenant, c'est la personne magique, c'est le peuple. Bon, ok, c'est le peuple. Du coup, il faut qu'on trouve une façon de faire en sorte qu'on fasse la même chose qu'avant, sauf que maintenant, ça sera le peuple qui le fera. Et donc, du coup, on a travaillé sur les esthétiques sociales. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en application plein d'écrits qui datent des 2 siècles précédents, où à l'époque, c'était comment on dit, des gens intelligents, quoi, qui faisaient passer leur vie à rien faire, à part réfléchir, qui écrivaient ces bêtises-là. Et du coup, on s'est dit, on va faire ça. Et donc, ce truc-là, c'est assez classique, hein, dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire que vous avez des savoirs qui sont très, très peu situés, et puis après, ils commencent à se répandre dans une classe sociale qui a du pouvoir, et après, ils commencent à se répandre dans le pouvoir, et au bout d'un moment, ils prennent toute la société. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, on a agi au début du 19e siècle sur deux grands trucs qu'on va en discuter, qui sont des petits concepts pas forcément évidents, mais voilà, qui s'appellent les paradigmes et les idéologies. Et quand je dis paradigme au sens de Thomas Kuhn, et quand je dis idéologie au sens de Foucault, Fairclough et Wodak et cette façon-là. Parce qu'il y a beaucoup de définitions sur ces choses-là. Donc, je vais essayer de les définir. Un paradigme, c'est comment est-ce qu'on voit le monde? Concrètement, tout le monde ne voit pas le monde de la même façon. Ça, on le sait. Le même monde n'est pas vu pareil. Et moi, j'aime bien expliquer ça aux gens quand j'essaie d'expliquer ça aux gens en disant, imaginez, vous avez une table et puis il n'y a rien dessus et tout d'un coup, on met des Playmobil dessus. Et là, maintenant, je vous dis, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, comment vous allez décrire la table? Ça, c'est vos paradigmes. Par exemple, si vous allez me dire, bah, sur ma table, je vois qu'il y a des hommes et des femmes, ça veut dire que vous partez du principe que dans la réalité, il y a des hommes et des femmes. Et ça peut paraître une évidence maintenant. Mais c'est intéressant parce que ce paradigme-là, il a été posé à ce moment-là de l'histoire, au début du 19e siècle. C'est au début du 19e siècle qu'on a inventé les femmes. Parce que ça n'existait pas avant. Hein? Avant, il y avait des êtres humains féminins, il y avait des êtres humains de sexe féminin, mais il n'y avait pas de femmes. La femme en tant que classe sociale, ça a été inventé au début du 19e siècle, et ça a été inventé en pour asseoir ce qu'on appelle du coup un paradigme, une vision du monde, et en l'occurrence, la vision du monde s'appelle le paradigme de la différence sexuelle, c'est-à-dire de dire les êtres humains sont découpés en deux sexes, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. On n'avait pas ça avant, parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir ça avant. Avant, on avait un seul être humain, et le sexe, c'était la conséquence de désordres de température interne qui étaient fixés différemment. Enfin, on avait une autre histoire parce qu'on s'en foutait, en fait. Mais maintenant, on avait besoin de créer un groupe homogène pour les... Et du coup, on a créé les femmes et on a posé le paradigme et on a dit, voilà comment il faut voir ce qu'il y a sur la table. On a posé un autre gros paradigme à ce moment-là. On a posé celui de la différence mentale, si on veut garder la même façon de nommer. On a dit, il y a dans la société humaine des gens qui sont sains d'esprit et de l'autre côté, des gens qui sont fous. Alors qu'avant, on avait les mêmes personnes, mais on ne posait pas les choses comme ça parce qu'en fait, on n'en avait rien à faire de savoir s'ils étaient sains d'esprit ou s'ils étaient fous. La question, c'est est-ce qu'ils avaient offensé un tel ou est-ce qu'ils foutaient le bordel dans la ville? Si c'était le cas, on les enfermait, on les envoyait au bagne. Il n'y avait pas besoin de mettre une étiquette de fou à l'époque, puisque le bonhomme magique tout-puissant, il décide à la place de tout le monde. C'est mieux que tout, c'est lui qui sait. Maintenant qu'on n'a plus de bonhomme magique tout-puissant, on a besoin de dire d'un côté il y a des fous, de l'autre côté il y a des pas fous. Maintenant qu'on n'a plus de bonhomme magique tout-puissant, on a besoin de dire d'un côté il y a des hommes, de l'autre côté il y a des femmes. Et en fait, on a réécrit toute une grande partie des paradigmes comme ça à ce moment-là, qui sont des évolutions normales des sciences, hein. Les paradigmes, ça évolue. Pendant un temps, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre, parce que, évidemment. Et puis après, on s'est dit, bah, en fait, non. Et puis, ça a fait un changement de paradigme. Et tout d'un coup, on s'est dit, ah bah, c'est plus comme ça qu'on voit les mêmes choses qu'on voyait avant. C'est juste qu'on voit la même truc, la réalité n'a pas changé, mais l'histoire qu'on raconte, elle n'est pas la même. Et donc, du coup, on a ancré ces paradigmes-là. Et en ancrant ces paradigmes-là, on a ancré différentes choses dans la société. Et la société française, c'est un super bon exemple de ça. On a, en gros, découpé la société en trois morceaux, qui sont d'un côté les hommes blancs, cis, hétérosexuels, enfin, il y a plein de caractéristiques, on entend beaucoup se dérouler là. Mais d'un côté, il y a les hommes blancs, de l'autre côté, il y a les femmes blanches, et du troisième côté, il y a les dégénérés. Et en gros, la société, elle est faite comme ça. Et si vous voulez, après, dans les dégénérés, on coupait en deux parce que d'un côté, il y avait les fous et de l'autre côté, il y avait les sauvages. C'est-à-dire qu'il y avait les dégénérés qui venaient d'ailleurs sur la planète et les dégénérés qui venaient de chez nous. Et globalement, le découpage était fait comme ça. Et il n'y avait pas d'hommes et de femmes dans les dégénérés. C'est-à-dire que quand vous regardez, moi j'ai fait ça pour ma thèse, hein, allez lire, vous allez sur Gallica et vous allez lire les vieux bouquins de psychiatrie d'il y a un siècle ou deux, ils sont en libre accès, des PDF de 100 mégas, voilà, il faut avoir vraiment rien à foutre de sa vie. Mais si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que même Enrique Lombroso, qui sont des criminologues du milieu 20e, quand il faisait des tableaux où il mesurait les crânes des êtres humains, les colonnes, c'était homme, femme, sauvage, criminel et fou. Sauvage, criminel, fou, c'est pas des catégories qui ont des genres. Les genres, c'est pour les vrais gens de la société. Ces gens-là, ils n'ont pas de genre. Et donc, du coup, c'est important parce que si le genre, il n'existe pas dans cette catégorie-là, c'est que le genre, intrinsèquement, il n'est pas une évidence de la nature, il est une façon d'organiser. Donc, en fait, quand on regarde, il y a d'un côté la population souhaitée, de l'autre côté la population pas souhaitée. Dans la population souhaitée, il y a les hommes et les femmes. Dans la population pas souhaitée, il y a les criminels et les fous. Et en gros, quand vous avez fait ça, vous avez fait à peu près toute la découpe de la société du XXe siècle. Et donc, du coup, après, il faut mettre des petits systèmes en place pour ces choses-là. Donc, il y a des systèmes pour les hommes, ils ont leur travail, les machins, il y a l'armée, bidule, etc. Il y a des systèmes pour les femmes qui font la popote et tout. Il y a des systèmes pour les fous, il y a des systèmes pour les criminels. Et donc, la naissance de la psychiatrie, c'est la naissance de la bataille entre, d'un côté, les médecins et de l'autre côté la justice sur qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, qu'est-ce qu'en fait ces gens-là et comment est-ce qu'on va découper cette population-là en termes de pouvoir, qui a pouvoir et qui a autorité sur qui. Et donc ça, c'est 1820 jusqu'à 1840 à peu près, notamment ça s'arrête avec la loi de 38, mais c'est ce moment-là en France en tout cas où vous allez avoir du coup le système judiciaire qui se met en place parce qu'on peut plus avoir le bonhomme magique qui envoie les gens en prison, donc on a fait des juges et des machins et des trucs et des tribunaux, et donc on fait le jugement, et là il y a des gens qui disent non mais cette personne est trop folle pour être jugée, elle ne dépend pas de la justice comme les autres citoyens, elle dépend d'un autre truc, vous ne pouvez pas décemment condamner cette personne, elle est tarée. Ah oui, mais comment est-ce qu'on sait? Et là il y a les médecins qui arrivent et qui disent nous on sait. Et donc, du coup, en disant nous, on sait, on a une prise de pouvoir des médecins sur le pouvoir judiciaire avec une grosse tension entre les juges et les médecins. Et là, c'est là qu'on se dit, OK, on sait, mais du coup, il faut qu'on crée un savoir. Et du coup, là, on a créé l'aliénisme. Et l'aliénisme, qui est la discipline qui a précédé la psychiatrie, c'est une discipline qui est née d'un besoin social qui était de dire, on a besoin d'avoir quelqu'un pour virer ces gens-là de la société. Et donc tous les savoirs de l'aliénisme se sont construits autour de cette idée-là. Le gros diagnostic phare de l'aliénisme, c'était la monomanie. Et la monomanie, c'est une maladie, en gros, c'est une maladie mentale à l'époque, c'était une aliénation. C'est une aliénation dont il n'y a plus de traces au moment où vous rencontrez la personne, mais l'aliéniste, il ou elle, sait qu'il y avait ça au moment des faits. Enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que vous avez zéro symptôme, vous avez un diagnostic, et on rigole, mais il y en a plein des comme ça encore aujourd'hui. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se dire, c'était d'asseoir cette histoire-là. Et donc, une grosse partie des histoires qui sont créées à ce moment-là, c'était ça. Et on a créé le prototype de tout ce qui est devenu les gros troubles psychiatriques, comme on dit, hein, les gros diagnostics, à ce moment-là. Sauf qu'à ce moment-là, on était dans une conception qui n'était pas la même conception que maintenant, on était dans une conception morale. Et on entend beaucoup ça, le traitement moral et les choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire moral? Moral, ça ne veut pas dire qu'on faisait la morale aux gens ou quoi que ce soit. Moral, ça veut dire qu'en fait, les gens, ils étaient dégénérés à cause de leurs vices. C'est-à-dire que c'est leur façon de vivre et leur comportement et leur mode de vie qui les a amenés à décrocher par rapport au reste de l'espèce humaine. Et maintenant, ils sont dans un état inférieur. Et notre boulot à nous en tant que médecins, c'est sûrement pas de les soigner, ils sont pas malades. C'est d'essayer de leur proposer d'une façon éthique et digne de pouvoir vivre dans la société. Et par éthique et digne de pouvoir vivre dans la société, ce que je veux dire, c'est les parquer comme des animaux dans des établissements à la campagne enfermés où ils sortiront jamais. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, du coup, quand on dit morale, c'est comprendre c'est la morale au sens début 19e siècle, la religion n'est pas encore séparée de l'État, la religion n'est sûrement pas séparée des sciences, elle ne l'est toujours pas, elle est très très ancrée dedans, il y a une bonne et une mauvaise façon de se comporter. Quand vous prenez les aliénés dans les asiles et que vous les faites travailler, vous ne les faites pas travailler parce que vous les exploitez économiquement, ça serait monstrueux. Vous ne les faites pas travailler pour les guérir parce qu'ils ne vont pas guérir par le travail. Vous les faites travailler pour les remettre dans le droit chemin, pour prévenir de futures dégénérescences, parce que c'est que ça qu'une personne doit faire de sa vie. Et donc, vous essayez de leur rendre au maximum un semblant de vie normale pour les maintenir. Donc, on est dans une logique, voilà, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de sortie de quoi que ce soit, et c'est purement de l'exclusion. Et ce truc-là a pas bien marché. Ce truc-là s'est écroulé sur la fin du siècle à cause, bah, pas seulement parce que c'était stupide et arbitraire, et que les rivalités entre les juges et les médecins et que les journalistes sont venus médier ça, ça a été un bazar social et du coup ça a changé de peau et ça a fait peau neuve comme Facebook est devenu Meta. Et en fait l'aliénisme est devenu la psychiatrie et ça a marché parce qu'il y avait, il y avait pendant un temps, genre en France, 1870, l'opinion publique, elle était contre les asiles. Et on a des journalistes qui revenaient d'avoir été internés là-dedans, hein, qui racontaient comment ça se passait, et les gens étaient choqués. Et la population, l'opinion publique était outrée sur ce qu'on faisait aux gens dans les asiles. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a une nouvelle génération de jeunes aliénistes qui ont dit c'est n'importe quoi ce que font les vieux, ils sont horribles, ils sont monstrueux. Nous, on est jeunes. Et on sait quoi faire, parce qu'il y a quand même un besoin, on va pas se leurrer. Et en fait, on va faire de la science. Et donc, du coup, on a continué à ancrer cette idée qu'en fait, on a renouvelé l'histoire. On a renouvelé l'histoire, et donc les problèmes qui étaient des problèmes moraux sont devenus des problèmes biologiques. Et ce qui était des aliénations sont devenus des maladies mentales. Et les traitements qui étaient des traitements moraux sont devenus des traitements physiques et biologiques. Et donc voilà. Mais c'était toujours les mêmes personnes enfermées dans les mêmes endroits, par les mêmes personnes, par le même corps professionnel, avec les mêmes devenirs et les mêmes trucs. Mais l'histoire avait énormément changé. C'est-à-dire que là, maintenant, vous pouviez répondre au public en disant, bah non, on n'enferme pas arbitrairement les gens. Ces gens-là, ils sont malades. On les soigne. C'est du soin ce qu'on fait. On n'est pas en train, on n'est pas des monstres. Et donc, du coup, on a commencé à soigner les gens. Donc, on soignait les gens de manière monstrueuse. On les électrocutait, on leur mettait des comas et taux de mortalité gigantesques. On coupait des morceaux de cerveau. On a fait un prix Nobel, d'ailleurs, pour ça. Enfin, bref. Et donc, du coup, on a beaucoup bossé sur comment s'occuper des gens à l'intérieur de ces environnements. Et du coup, on a développé une logique extrêmement biologisante. Et donc, du coup, il fallait qu'on fasse ça. Et le prérequis, maintenant, quand vous vouliez être un savoir à ce moment-là de l'histoire, c'était il fallait être biologique et il fallait rentrer dans la mouvance. Parce que bêtement, si vous n'êtes pas dans cette mouvance-là, bah déjà de un, vous n'existez pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas vraiment beaucoup d'autres façons de comprendre le monde. Donc vous n'existez pas. Et quand bien même vous existeriez, vos recherches ne sont pas financées, vos travaux n'ont pas de portée, personne ne vous écoute, et les gens vous attaquent en disant que vous faites n'importe quoi, vous mettez les gens en danger. Donc de toute façon, il n'y a pas d'autre façon de penser, parce que la seule possibilité pour produire du savoir, c'est de produire du savoir qui argumente ça. Donc on a produit plein de savoirs qui argumentent ça, et on a trouvé ça tellement pertinent qu'on est allé voir les autres disciplines médicales et qu'on leur a dit, hey, les gars, ça vous dirait pas qu'on fasse un projet commun? Et on a fait un projet commun avec les autres disciplines médicales, et c'est la psychiatrie qui a initié ça, et on en est très fiers, et ça s'appelle l'eugénisme. Et donc l'eugénisme, c'était le grand projet de la discipline quelques années après son lancement au début du XXe siècle, qui était de dire, hey, les gars, on peut améliorer l'espèce humaine, et c'est trop cool. Ouais, il y a une main levée. On peut parler, hein, faut me couper la parole, hein, j'insiste vraiment parce que je parle. Hein. Non? Bon, en tout cas, si on me coupe la parole, je me tais. Et donc, du coup, on a lancé cette idée de l'eugénisme, et c'était top, hein, on faisait des affiches, des posters, on revendiquait ça. Hein, je veux dire, on va améliorer l'espèce humaine, c'est fini, la fin des maladies, la fin de la souffrance, hein, je veux dire, la psychiatrie a sauvé le monde. Et donc, du coup, on a développé ce truc-là, et ça s'est quand même plutôt bien développé. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, ok, on ne sait pas ce que les gens ont, mais on sait qu'ils ont un truc, puisqu'il faut qu'ils aient un truc, sinon enfin, faut qu'il y ait une raison pour qu'ils ne soient pas dans la société. Donc, ils ont un truc. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est que c'est probablement incurable et héréditaire. Voilà, ça c'est sûr. Position de départ. Donc si la position de départ, c'est que c'est incurable et héréditaire, c'est quoi la suite logique? Bah, la première suite logique, c'est bah, stériliser les gens. Il faut surtout pas qu'ils le... C'est héréditaire, il faut pas qu'ils le donnent, il faut pas les laisser se reproduire. Donc on a commencé à stériliser tout le monde. Les premiers, c'est les Américains, les Scandinaves ont suivi. 1904, je crois, la première loi de stérilisation de tête. Et voilà, donc c'était stérilisation et on stérilisait cette population. Et cette population, à l'époque, c'était les criminels, les fous, c'était ça, principalement les criminels et les fous, et les violeurs. Les violeurs, ça a toujours été une catégorie un peu à part de criminels. Et donc, ces trois catégories-là, on les stérilisait de principe. Et ça a été mis en place assez rapidement dans les pays qui étaient très eugénistes, notamment les pays anglo-saxons avec une volonté de, une pensée anglo-saxonne. Donc, les États-Unis, les pays scandinaves. Et puis la logique, c'est pas juste de leur empêcher de faire des enfants. Le problème, c'est qu'à côté de ça, est-ce que c'est éthique de les laisser vivre, ces gens-là? Eh ben c'est cool parce qu'ils ont vraiment posé la question. Et donc il y a un bouquin qui est vachement intéressant, qui a été la censure a été levée dans les années 70, qui s'appelle la destruction des vies dénuées de valeur. Enfin le titre est un petit peu plus long. C'est par le Binding et Oche. qui donc c'est un psychiatre et c'est un juriste, et les deux ont fait un bouquin d'éthique sur justement comment est-ce qu'on définit qu'une vie a de la valeur, et quel est le meilleur traitement à donner aux vies qui n'ont pas de valeur. Et donc ça, c'est arrivé dans un contexte qui est bien particulier, qui est le contexte de l'Allemagne des années 20 aux années 30, l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, qui a été coupée économiquement, qui n'avait pas de thunes, et qui du coup, concrètement, dans son système de santé, n'avait pas d'argent. Parce que les gens, à l'époque, ils ont préféré investir dans le système économique en se disant que ça va faire monter la croissance et je sais pas quelle connerie, et du coup, il n'y avait pas de thunes en santé, les gens mouraient. Et donc, du coup, comme ils ne pouvaient pas soigner les gens, ils se sont dit, hey, pour chaque personne handicapée que je tue, je peux soigner X autres personnes qui est pas handicapée. Et ils se sont mis à exterminer les personnes en situation de handicap et ils ont fait un programme d'euthanasie nationale qui a été mis en place fin des années 20 et qui a été arrêté officiellement en 1933 quand Hitler est arrivé au pouvoir puisque il a jugé ça inhumain et il l'a fait fermer. Et puis qu'en fait, il s'est pas arrêté et qu'il a été réouvert un petit peu après à l'occasion de trucs assez dramatiques que tout le monde connaît de la Seconde Guerre mondiale qui sont quand même de se dire que à ce moment-là de l'histoire, dans le continent européen et dans d'autres endroits du monde, mais notamment ce qui s'est passé au niveau du continent européen, c'est que ces gens qu'on parquait dans des asiles, ces gens qu'on mettait à la marge de la société et dont on ne voulait pas dans la société, on s'est mis à les exterminer de manière systématique et à les transformer en ustensiles du quotidien. Et si je fais ce lien-là, c'est pas juste pour faire un point Godwin et parler de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi parce que l'infrastructure d'extermination systématique, elle a été construite par la psychiatrie allemande, qu'il y a des papiers là-dessus, et que moi, si les gens veulent des sources là-dessus, c'est aucun problème, que l'infrastructure épistémique, la façon qu'on a de comprendre le monde, qui a construit la psychiatrie, notamment avec l'eugénisme et tout, a complètement assis la pensée d'extrême droite qui arrive au pouvoir à cet endroit-là. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que même si la focalisation historique, elle est sur l'extermination du peuple juif, qui est une très grosse composante de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif à l'époque, c'était pas le peuple juif de maintenant. Je fais notamment référence à tout ce qui a été fait en termes de psychopathologisation au début du XXe siècle sur les personnes juives, à la fois dans les écrits de Freud et plein d'autres choses. Enfin, faut quand même pas oublier que c'était globalement le même bateau. C'est-à-dire cette idée de se dire qu'il y a des gens qui portent en eux une dégénérescence héréditaire incurable dont il faut se débarrasser. Et donc, du coup, les moyens d'extermination des différentes populations n'ont pas été exactement les mêmes, mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que les populations qui étaient concernées par les solutions asilaires un siècle avant se sont retrouvées dans une logique d'extermination, à quasiment aucune exception. Et du coup, ces populations-là, c'est principalement les personnes folles. Les personnes queer et les personnes LGBT, les personnes qui font du travail du sexe, les personnes avec une situation de handicap intellectuel ou de handicap moteur, c'est toute cette population-là de gens dont on ne veut pas. C'est les indésirables de la société et on veut qu'ils disparaissent et par le passé, on a essayé de les faire disparaître. Et cette étape de la Seconde Guerre mondiale, elle est vachement importante quand on essaie de comprendre l'histoire de la pensée médicale, parce que la Seconde Guerre mondiale, ça a été un tournant assez important dans la pensée médicale, notamment parce que dans les procès de Nuremberg, le procès du deuxième jour, c'était le procès des médecins. Et donc, du coup, c'était le procès des médecins du régime nazi. Et le procès des médecins du régime nazi, il n'est pas intéressant dans les faits, parce que les faits sont glauques et juste triste. Le jugement des médecins, il est intéressant parce que le jugement est devenu ce qu'on a appelé le code de Nuremberg, qui n'a jamais été un code, hein, c'était le jugement qui a été mis à ce moment-là. Et ce code de Nuremberg a servi de trame à la déclaration d'Helsinki, qu'on utilise encore à l'heure actuelle en recherche, qui est une déclaration de protection de la personne humaine. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on mettait dans l'histoire de l'humanité, dans un texte législatif, l'idée du consentement de la personne face à un médecin. C'est pas la première fois que c'était là l'idée. Parce que l'idée du consentement, elle était là depuis le début de la création de la médecine, etc., etc. C'était les valeurs, le truc, le serment, tous ces trucs-là, quoi. Elle a toujours été là. Mais la première fois qu'on le met dans un texte juridique, c'est à cet endroit-là. Parce qu'avant, c'était une évidence que les médecins travaillaient avec le consentement des gens et qu'ils faisaient toujours les choses qui étaient bien. Et là, pour la première fois, on a vu des médecins faire des trucs tellement horribles qu'on était obligé de les punir. Et en fait, il fallait ça pour pouvoir punir les médecins. C'est une autre façon de le formuler. Et la punition qu'on a fait aux médecins, c'est qu'on a commencé à poser la notion du consentement dans un point de vue juridique. Parce qu'avant, les médecins et les juges étaient deux corps de métier qui se faisaient la guerre. Et quand on a commencé à mettre des lois sur le consentement, on a hiérarchisé la loi, la justice au-dessus de la médecine en disant la justice peut attaquer la médecine et la médecine, elle est bloquée. Et il y a plein d'instances comme la criminologie, l'expertise médicale, etc., qui sont des tentatives de reprendre du pouvoir dans cet équilibre entre les institutions. Mais du coup, la Seconde Guerre mondiale, elle a fait ça. Et c'est parce qu'en 1945, en 1946, au procès de Nuremberg, on a fait ce procès-là pour les médecins, qu'on a eu la loi de 2002 sur le droit des malades en France, et la loi qui permet la personne de confiance, qui définit clairement la question du consentement et qui pose l'infraction pénale, la liberté d'accès au dossier médical, des choses comme ça. C'est des choses qui sont nées de l'extermination systématique de la Seconde Guerre mondiale et des conséquences qu'il y a eu. Il y a un autre truc qui est vachement important qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est on a changé la vision qu'on avait de l'humanité. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de choses horribles qui se sont passées en très peu de temps que pour beaucoup de gens, ça a fait un clic assez fort qui fait que du coup, les paradigmes ont commencé à bouger. Les façons qu'on avait de voir le monde a commencé à bouger. Parce que ça ne marchait pas la façon qu'on avait de voir le monde avant. Et là, on a commencé à créer du glissement, on a commencé à décrire la réalité différemment. Et donc, du coup, on a eu un exemple de ça, c'est on a commencé à créer la notion de genre. La notion de genre, c'est arrivé à cet endroit-là de l'histoire. Ça veut dire qu'avant ce moment-là de l'histoire, il n'y avait pas la notion de genre. Et c'est pas parce qu'elle était cachée dans les hautes herbes et qu'on ne l'avait pas trouvée. C'est parce qu'on n'avait pas eu besoin d'aller la chercher, la notion de genre, avant ce moment-là. Et là, à ce moment-là, on a eu besoin d'aller chercher la notion de genre. Et on a eu besoin d'aller chercher la notion de genre pour deux grandes raisons historiques. Un, on a enfin compris que c'était pas pareil une femme trans et un homme homosexuel. Parce que ça, c'est date des années 70 que la psychiatrie fait la différence entre les deux. Avant les années 70, c'était la même catégorie. C'était n'importe quoi. Des gens qui veulent jouer à des hommes, qui veulent jouer à des femmes. Et donc, du coup, on a ce truc-là. Mais ce truc-là, il découle de combats sociaux et de déroulés sociaux qui font qu'en fait, on n'aurait pas eu la notion de genre un siècle avant parce qu'on n'en avait pas l'utilité. Et ça, c'est important, c'est que les savoirs qu'on développe, les recherches qu'on fait, les façons qu'on a, les objets qu'on construit, on les construit parce qu'on en a l'utilité, ils servent à quelque chose. Et on fait pas ça au pif. On vient pas de financer des dizaines de millions d'euros à Marion Le Boyer pour une recherche de psychiatrie précision de la con là, parce que c'est ça qu'il faut faire. On le fait parce que c'est là qu'on veut des résultats. Et donc du coup, on cherche là où on veut trouver. Et ça, c'est important. Et du coup, les gens qui ont commencé à comprendre ça, c'est là qu'est né le constructivisme. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ces atrocités qu'on a commises, ces schémas qu'on a, en fait, tout ça, c'est pas des gens, en fait. C'est-à-dire que c'est pas essentialiste. Il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants. Vous avez des gens comme tout le monde qui se sont retrouvés à collaborer avec le régime nazi. Vous avez des gens, vos voisins de tous les jours, qui ont commis des atrocités. C'est pas parce qu'en fait ces gens ils étaient mauvais et vous le saviez pas. Alors il y a des gens qui pensent encore comme ça, hein. Notamment c'est politique hein, les façons de voir le monde. Donc notamment du côté droite, il y a des gens qui voient encore le monde comme ça, de se dire qu'en fait chaque personne c'est un peu comme une carte à gratter et vous allez dans son dos, vous frottez avec les pièces et puis vous regardez ah criminel merde. Enfin je veux dire et il y a encore des gens qui pensent comme ça, mais il y a des gens qui se sont dit non en fait on peut pas expliquer ça par des questions d'essentialisme. Il faut qu'on essaye de comprendre qu'en fait c'est les gens dans un système. C'est-à-dire que c'est pas cette personne qui est mauvaise. C'est le système qui met la personne à cet endroit-là. Et ça, c'est le constructivisme. Et on a commencé à penser les systèmes. Et ma discipline préférée est née à ce moment-là, la cybernétique. C'est franchement, faut lire la cybernétique. Si vous n'aimez pas, c'est que vous avez fait une erreur. C'est vachement bien, la cybernétique. Il faut lire Norbert Wiener. Norbert Wiener, grand nom de la cybernétique, si j'avais eu un père, ça aurait été lui, a écrit deux bouquins qui sont très faciles d'accès. La cybernétique, c'est une métadiscipline, c'est-à-dire que c'est une discipline qui étudie les autres disciplines et qui s'intéresse à essayer de faire des modèles simples du monde pour rendre compte comment les systèmes fonctionnent. Et c'est vachement bien, dans le bouquin, c'est cool, le mec, il vous démonte un autoradio et vous explique comment marche un autoradio et après il vous explique que votre tête marche pareil et vos poissons aussi. Enfin, je veux dire, c'est vachement intéressant parce que ça vous permet d'avoir vraiment des modèles hyper simples que vous pouvez transmettre. Voilà. Je kiffe. Mais du coup, les êtres humains ont commencé à s'intéresser au système. Et en s'intéressant au système, les êtres humains ont commencé à mettre en place des réponses de système. En psy, c'est là qu'on a créé la systémique. La thérapie systémique et l'approche systémique, c'est né à ce moment-là. L'école de Palo Alto et tous ces trucs-là. C'est né de ce moment-là où on a commencé à se dire, en fait, les gens dans un système. Et puis après, dans les années 70, il y a commencé à y avoir des gens qui ont commencé à avoir une division dans ce courant-là, entre les gens qui ont dit, ouais, les systèmes sont comme ça, mais ils sont comme ça parce que c'est une vérité de l'univers, et les gens qui ont dit, les systèmes, ils sont comme ça parce que ça arrange bien. En fait, ils ont une raison d'être comme ça, ils ont une histoire d'être comme ça. En fait, on a inventé les femmes parce que on avait besoin de gens pour faire la vaisselle. Je schématise, mais pas tant que ça, en fait, en vrai, hein. Enfin, je veux dire, c'est une histoire assez simple, une lecture assez simple, mais pas forcément très fausse de la société, de se dire, hey, on a coupé la tête du roi, l'empereur est mort, il faut qu'on fasse un système. Ouais, mais il y a plein de vaisselle à faire. Bon, on n'a qu'à dire que c'est elle qui s'en occupe. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a créé le genre. Et du coup, cette idée-là, elle est importante. Et donc, la question de la lecture post-constructiviste, c'est la question de se dire, quand je suis face à quelque chose, au lieu de me dire ce quelque chose est, c'est de l'essentialisme, au lieu de me dire le rôle de ce quelque chose dans le système, c'est du constructivisme, c'est de me dire, pourquoi ça et pas autre chose, en fait? Pourquoi ça et pas autre chose? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question-là, pourquoi ça et pas autre chose? Et ça, c'est une question qui met vraiment mal la pensée psychiatrique. Parce que quand vous arrivez, quel que soit l'élément de la psychiatrie que vous prenez au pif, vous lui dites pourquoi ça et pas autre chose, et l'interlocuteur, la personne en face ou l'interlocutrice est toujours en difficulté pour répondre. Parce que la psychiatrie, c'est quelque chose qui est construit a posteriori d'une vérité, c'est-à-dire qu'on avait déjà décidé le résultat à l'avance. Hein. Le résultat, c'était il faut les enfermer et les médiquer. Et on a construit plein de savoirs pour arriver à justifier ça. Et donc, comme tout est construit sur cet objectif, et tout est dirigé sur cet objectif. Si vous arrivez en disant oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris un autre? Il n'y a pas d'autre réponse que de dire bah, parce qu'on avait déjà décidé à l'avance de les enfermer. Donc en fait, enfin, je veux dire, oui, c'est vrai que si on s'est posé la question différemment, on aurait peut-être trouvé d'autres réponses, mais c'est pas ça qu'on fait. C'est pourquoi tu poses la question comme ça? Et donc du coup, la logique post-constructiviste, elle est là. La logique, c'est de se dire ouais, ok, les femmes font plus de tâches ménagères. Pourquoi? Mais pourquoi pas autre chose en fait? Pourquoi ça serait pas les hommes? Qu'est-ce que ça changerait là tout de suite si je me mets à raisonner par l'absurde et que je me disais tiens, je claque des doigts et le seul truc qui change dans la société, c'est que les hommes font la vaisselle. Surtout qu'en plus, quand ils font les tâches ménagères, ils font pas la vaisselle. Du coup, ok, ça, qu'est-ce que ça change? Et là, je me rends compte de tout ce que ça fait bouger un peu partout. Et quand je vois tout ce que ça fait bouger un peu partout, je comprends la taille du système de tous ces trucs-là qui sont accrochés ensemble. Et je me rends compte qu'en fait, faire des parallèles entre tous les trucs, c'est pas forcément déconnant. C'est juste comment je peux argumenter qu'il y a vraiment des liens entre les choses. On va prendre un exemple super simple et super psychiatrique. On va prendre la schizophrénie. La schizophrénie, c'est top. S'il y a un adjectif à donner, c'est top. Comment ça marche? Bon, les gens étaient monomaniaques au 19e siècle. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des symptômes pour être malades. C'est fatigue, tout le monde l'était. Il y avait d'autres exceptions. Hein. Il y avait l'hypomanie, la mélancolie. Enfin, il y avait d'autres trucs. Mais en gros, les gens étaient monomaniaques. Et après, on s'est dit, bon, ok, maintenant, on fait du biologique. Du coup, ils peuvent plus être monomaniaques, puisque ça, c'était un truc moral pourri d'avant. Du coup, il faut qu'on ait un truc maintenant. Ok, super. Comment ils sont les gens? Bah, ils tiennent pas la route. Ouais, ok, super. Est-ce qu'on a d'autres gens qui tiennent pas la route? Ouais, il y a des personnes âgées qui tiennent pas la route. Ok. Et ben, tu sais quoi? On va dire que les personnes âgées qui tiennent pas la route, elles sont démentes, et que les personnes qui sont pas âgées qui tiennent pas la route, elles sont démentes, mais c'est précoce. Et ça a créé la démence précoce. Hein, la démentia précoce, la démence précoce, c'est cette entité diagnostique qui est née à ce moment-là de l'histoire et qui est dire les êtres humains, il y en a avec l'âge. Enfin voilà, c'est pas toujours comme du Bordeaux quoi. Il y en a, ça marche pas très bien sur la fin. Et donc du coup, il y en a qui commencent plus jeunes ce truc-là et les gens qui commencent plus jeunes ce truc-là, c'est la démence précoce. Et donc comme c'est une démence, bah, c'est incurable, irréversible, machin, etc. Probablement héréditaire parce qu'on a vu qu'il y a des familles. Et donc du coup, voilà, donc pas de chance. Vous êtes tombé dément à 20 ans et puis ben c'est votre vie maintenant. Donc la démence précoce était là. Et en fait, il y a un type assez chouette qui s'appelle Bleuler, Eugène. Si vous connaissez pas Bleuler, il faut rencontrer, enfin, il faut plus rencontrer parce qu'il est mort, mais je veux dire, il aurait fallu rencontrer cette personne. C'était quelqu'un d'assez chouette. Notamment, il a beaucoup écrit sur l'eugénisme. Il a beaucoup pris le temps d'écrire sur quelle partie de l'humanité on devrait autoriser ou pas à se reproduire. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est aussi un des grands noms de l'histoire de la psychiatrie que tous les psychiatres connaissent parce que c'est partie de l'histoire de la psychiatrie qu'on vous apprend. Et Bleuler, il a inventé la schizophrénie. Et quand on dit il a inventé la schizophrénie, c'est pareil, hein, c'est pas comme le constructif, enfin c'est comme le constructivisme, hein, c'était pas dans le, la schizophrénie n'était pas dans les hautes herbes et il est tombé dessus. Enfin, je veux dire, il n'était pas sous l'histoire, c'est pas Bleuler mangeait sous un arbre, une pomme est tombée sur sa tête, il s'est dit Eureka, la schizophrénie. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de se dire, ok, merde, dans les gens qu'on a enfermés parce qu'ils étaient irrécupérables, il y en a qui récupèrent. Ça fait chier, parce qu'en fait, on aurait préféré qu'il n'y en ait aucun qui récupère. Mais là, il y en a dans un environnement horrible, avec aucune perspective de quoi que ce soit, et que du mauvais traitement, il y en a qui arrivent à aller mieux. Bon, bah, fait chier. Et ben, ça, c'est la schizophrénie. Hein, à la racine de la définition de Bleuler. La définition de Bleuler, c'était de dire non, 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 toutes les personnes ne sont pas atteintes de démence précoce, certaines peuvent s'en sortir, Et celles qui peuvent s'en sortir, elles sont schizophrènes. Et là, on a posé le concept. Et ce concept, il est né à ce moment-là. Et ce concept, il n'a rien à voir avec ce qu'il fait maintenant, hein. Je veux dire, le mot n'a pas changé, l'histoire n'a pas beaucoup changé, mais la mécanique, elle est là. Et donc, en fait, c'était de se dire, OK, on a plein de gens qui sont parqués dans les institutions, il faut qu'on trouve une façon de les faire sortir. Bon, en fait, on peut les faire sortir. On ne les fait pas sortir en les guérissant. C'est-à-dire, Bleuler, il n'est pas arrivé en disant, j'ai guéri la démence précoce. Il ne fait pas ce qu'ils font maintenant, en disant, il y a 23 sous-types de démence précoce, et sur la démence précoce de sous-type 4, 5, 6B, cluster 8, on peut utiliser un... Non, il n'a pas fait ça, Bleuler. Il a dit, non, non, ce qu'on change, c'est la définition des diagnostics, c'est pas ce qu'on fait. Il n'a pas dit je sais soigner la démence précoce, il a dit ça n'est pas tout le temps de la démence précoce, ça peut être autre chose. Parce qu'à cette époque-là, le soin n'existait pas. Il faut rappeler que la psychiatrie en France, c'est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur jusqu'aux années 60 à peu près. Donc début 20, milieu 20e, jusqu'au début, de début 19e quand c'est né jusqu'au milieu 20e, c'était le ministère de l'Intérieur. On a encore des reliquats de ça. On a encore le préfet qui fout des gens à l'hôpital psychiatrique en France. On est un des seuls pays du monde où la police peut mettre les gens à l'hôpital psychiatrique. On a ce reliquat-là dans notre histoire. Et donc, du coup, à l'époque, on n'avait pas besoin de raconter des conneries de diagnostic ou de traitement. On avait juste créé une autre entité. On avait dit, eh ben, il y a la schizophrénie. Et du coup, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a créé un rôle au psychiatre de l'époque. Le psychiatre, c'est celui qui sait faire la différence entre la personne qui a une démence précoce et la personne qui a une schizophrénie. Et quel intérêt ça a à ce rôle-là? Bah, ça veut dire que vous avez l'autorité de vider une institution. Parce que du coup, si la personne elle rentre et que vous dites, mais en fait, elle n'est pas démence précoce, elle est schizophrène, faites-la sortir. C'est ça l'idée. Et donc, du coup, l'idée, c'était un enjeu économique de pouvoir vider les institutions et on a réussi à créer un diagnostic à partir de là. Le diagnostic, il a persisté parce que c'est ce que font les diagnostics. Et le diagnostic, il a été entièrement remodelé dans les années 60 par un type qui s'appelle Schneider. Et enfin, en tout cas, c'est lui qui a pris le nom parce que les noms, c'est toujours, faut trouver quelqu'un, il faut que ça soit un mec. Et donc, du coup, c'est lui qui était là. Et donc, du coup, Schneider, il a réécrit la schizophrénie du début à la fin et il a dit la schizophrénie, c'est un trépied diagnostique, désorganisation, hallucination, délire. Bam. Bon, il a posé ça là. Et à partir de là, officiellement, c'est ce qui est devenu la schizophrénie. Sauf qu'en fait, là, à l'heure actuelle, c'est toujours pas le cas. Vous avez la Cochrane qui vous fait une revue de littérature. Ils vont regarder dans les études scientifiques les gens étiquetés schizophrènes qu'ils prennent pour faire les études. Ils regardent si ces gens-là ont bien les diagnostics, les critères diagnostiques de Schneider. Et il y a que 60% qui les ont. Donc il y a 40% des gens qui ont le diagnostic, qui ont été bien choisis par la recherche avec plein de validations de machin partout, qui ont la définition du diagnostic. On ne sait toujours pas ce que c'est le diagnostic de schizophrénie à l'heure actuelle. Et il y a un bouquin qui est hyper intéressant, si ça vous intéresse ce sujet-là, à lire. C'est The Protest Psychosis. Alors il était traduit en français, mais j'ai plus le titre en français. C'est par Metzl, Jonathan Metzl. Et sur la base d'analyse, c'est un psychiatre américain. Et sur la base d'analyse de dossiers d'un hôpital pénitentiaire psychiatrique américain, il relate l'histoire du diagnostic de la schizophrénie à travers tout le XXe siècle aux États-Unis, en montrant comment, au début du XXe siècle, c'était un diagnostic pour les femmes qui arrêtaient de faire le ménage. Vers le milieu du, bah, littéralement, hein, c'était quand vous prenez les premiers cas cliniques, c'était un matin, elle devait se lever, se maquiller, emmener les enfants à l'école, aller faire les courses, s'occuper de la maison, récupérer les enfants à l'école et faire à manger. C'est ça le truc qu'on lui demande, elle a arrêté de se maquiller, elle a commencé à plus vouloir emmener les enfants à l'école, et quand son mari l'a emmenée en course, elle a fait une crise dans le magasin. Crise dans le magasin, trouble à l'ordre public, intervention des forces de l'ordre, évaluation, estimée folle, transfert à l'hôpital psychiatrique d'Iowa, morte à l'hôpital psychiatrique d'Iowa, elle n'a jamais sorti de sa vie. Et cette dame-là, c'est typiquement le diagnostic de schizophrénie du début du XXe siècle. Puis après, ce diagnostic a changé, parce que après, il y a eu les problèmes. Les problèmes. Il y a eu les problèmes des droits des personnes de couleur aux États-Unis. Fait chier. Qu'est-ce qu'on fait avec les mouvements des droits sociaux? Ça fait yesh. Et donc, du coup, parce qu'avant, on était tranquille, parce que les personnes noires aux États-Unis, elles étaient psychopathes et ça allait. Et le problème, c'est que là, il y en a eu beaucoup. Et comme il y en a eu beaucoup, eh ben, elles sont devenues psychotiques. Et donc, du coup, la schizophrénie a été reprise par les personnes noires dans les années, enfin, par les personnes noires, a été reprise par les personnes blanches pour désigner les personnes noires dans les années 60-70, à partir des années 60-70 aux États-Unis, parce que c'était ça, là, le besoin politique du moment. C'est-à-dire que le besoin politique, il était plus sur la question de la domination de la femme dans ses tâches du quotidien, il était sur la question de la domination raciale. Et donc, du coup, la schizophrénie, c'est devenu ça. Et c'est vachement intéressant parce que dans son bouquin, il vous le montre bien parce il vous prend des dossiers tranche d'année en tranche d'année et vous voyez l'évolution des profils des gens. Et puis, vous voyez maintenant, en plus, quand vous avez un regard actuel sur ça, vous voyez bien que c'est pas comme ça qu'on diagnostiquerait et les entités, elles ressembleraient pas à ça. Ouais, Joanne?
Tu viens d'utiliser le mot psychotique, du coup je me suis perdu. Comment tu distingues schizophrénie et psychotique?
Alors, psychotique, c'est pas forcément c'est un mot que j'utilise pour rigoler. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Moi, quand j'utilise psychotique, je l'utilise là, en l'occurrence, au sens psychiatrique de la CIM, c'est-à-dire le chapitre, anciennement le chapitre F2, le chapitre sur les diagnostics des troubles délirants. Et en fait, parce que c'est pour ça que là, pour le coup, si tu veux, j'ai utilisé psychotique parce qu'en fait, c'était pas que la question de la schizophrénie, c'était parce qu'en fait, ils sont allés plus loin que ça, les chercheurs à cette époque-là. C'est pour ça que le bouquin s'appelle The Protest Psychosis. C'est parce qu'en fait, ils ont créé un nouveau diagnostic qui s'appelait la psychose de protestation pour désigner ces personnes noires aux États-Unis qui étaient persécutées par des personnes blanches qui, soi-disant, viendraient leur pourrir la vie, les menaceraient, brûleraient des croix sur leur jardin et tout n'importe quoi, des choses comme ça. Et donc, ils ont été créés, ce diagnostic-là. Et c'est vachement intéressant parce que si vous allez sur la base PubMed là tout de suite et que vous tapez Protest Psychosis, vous avez encore l'article qui date de 63, je crois, ou 68, un truc comme ça, qui est encore référencé dans la base PubMed, l'article qui s'appelle The Protest Psychosis et qui crée cette nouvelle entité diagnostique en disant on a découvert un nouveau trouble délirant chez les personnes noires. Et maintenant, rétrospectivement, avec le recul, on se dit bah non, c'est n'importe quoi. Vous avez utilisé la psychiatrie, pas des fins politiques en faisant ça. Mais à l'époque, ils ne le voyaient pas, les gars. Parce qu'ils sont nés dedans. C'est ça qui est intéressant. Un autre diagnostic qui est intéressant dans ce genre-là, c'est la drapétomanie, c'est connu. La drapétomanie, c'est beaucoup plus ancien, mais c'était la maladie que certains esclaves noirs avaient. C'était une maladie mentale, et en fait, ils essayaient de s'enfuir. Et c'était pas logique. C'était pas logique parce que, avec la logique de l'époque, comment expliquer ça? Avec la logique de l'époque, la Bible disait que l'homme noir devait servitude à l'homme blanc. Hein, c'est l'histoire avec les trois enfants d'Abraham. Enfin, c'est évident. Hein. Et donc du coup, mais en contrepartie, l'homme blanc devait bien traiter son esclave. D'ailleurs, enfin, c'est écrit dans la Torah, hein, tout ce que vous devez faire en temps d'engagement là-dessus. Donc du coup, quand un esclave s'enfuit, il y a deux possibilités. Soit il est maltraité et à ce moment-là, c'est répression pénale sur le propriétaire. Soit il est bien traité, et un esclave bien traité qui s'enfuit, c'est contre nature, donc il est fou. Et donc du coup, il est fou, et en l'occurrence, c'est la drapétomanie. Drapétomanie, c'est le besoin de courir. C'est ça que ça veut dire étymologiquement. Et du coup, le traitement à l'époque, c'était traitement chirurgical et c'était l'ablation de deux gros orteils. Puisque quand vous avez plus de gros orteils, vous ne courez plus. Et donc du coup, en fait. Et le diagnostic a été créé par un orthopédiste. Donc, enfin, c'est intéressant, je veux dire. On voit toujours qu'à chaque fois qu'il y a un concept qui se crée, il y a un besoin, il y a un contexte dans lequel les savoirs se créent, il y a un besoin auquel les savoirs viennent répondre. Et donc, du coup, la question de se dire comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, on vive dans une société qui soit à ce point polluée des savoirs psychiatriques, au point qu'on arrive à se conceptualiser nous-mêmes ou nos proches en utilisant cette grille-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'a pas coté comme ça cote ce que je raconte pour les personnes de couleur chez certaines personnes et comme ça peut coter sur les questions de genre chez d'autres personnes. Parce que si là tout de suite j'arrive et que je commence à expliquer qu'en fait les femmes font plus la vaisselle parce qu'elles sont mieux équipées pour, parce qu'avec leurs petits doigts fins elles peuvent enlever les trucs, les gens vont me regarder et vont me dire que je suis quand même un petit peu misogyne ou en tout cas que c'est un peu discriminatoire mon propos. Mais si je venais raconter des trucs sur les personnes avec un diagnostic de schizophrénie, de machin chose, personne ne me dirait que c'est discriminatoire. Les gens m'écouteraient en disant, oh, c'est hyper intéressant, c'est vrai, ils pensent vraiment comme ça. Parce que on n'a pas coté dans notre tête que c'était une question de discrimination. Et ça, je pense que c'est. Et je voudrais terminer peut-être mon blabla, parce que je sais pas où j'en suis, mais je blablate, quoi. Mais je voudrais peut-être prendre un petit temps là-dessus, sur cette idée-là, de se dire qu'en fait, il y a tout ça, c'est extrêmement politique. Et quand je dis tout ça, c'est extrêmement politique, c'est on va parler vite fait militantisme et comprendre qu'en fait, il n'y a rien qui n'est pas politique dans la vie. C'est-à-dire que soit vous allez avoir des gens qui vont se revendiquer d'un militantisme, notamment, c'est principalement les gens qui viennent de groupes oppressés, et les gens qui viennent de groupes oppressés vont dire « je veux que ça change, j'en ai marre d'être oppressé ». Soit vous allez avoir les gens qui vont être du groupe oppresseur et qui, eux, vont pas politiser leur truc, mais qui en fait est extrêmement politisé. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si c'est plus simple. Vous voyez, par exemple, des gens qui attaquent les autres en disant c'est de l'idéologie ce que tu racontes. Bon, bah, c'est cool, ouais, c'est de l'idéologie ce que je raconte. Mais en fait, ce que toi aussi tu racontes, c'est de l'idéologie. Puis en fait, ce que tout le monde raconte, c'est de l'idéologie. Parce que par définition, l'idéologie, c'est qu'une fois que vous avez décrit ce qu'il y a sur votre table avec vos petits Playmobil, que vous avez fait votre paradigme et vous avez dit, moi, je vois ça sur la table, et ben, l'idéologie, c'est quelle histoire vous allez raconter? Qu'est-ce que vous allez faire de vos petits Playmobil sur la table? Ah ben machin va sauter par la fenêtre pour aller rejoindre Bidule machin et acheter du boulot à la boulangerie. Enfin, j'ai ma petite histoire. C'est comme ça que je vois que les choses vont se passer. Et l'idéologie, c'est comment est-ce que je pense que les choses devraient se passer. Et donc concrètement, vous avez deux trucs dans l'idéologie. Vous avez les gens qui pensent qu'il faudrait que ça change et les gens qui pensent qu'il faudrait que ça change pas. Et les gens qu'il faudrait que ça change, ils sont politisés et les gens qu'il faudrait que ça change pas, ils ne sont pas politisés. Et donc comme par essence, tous les sujets sont politiques. On l'a vu, hein, la discipline psychiatrique, elle a, je sais pas, j'espère que c'était assez prégnant dans ce que je raconte, mais elle a été inventée pour un besoin social. Ce n'est pas une évidence de la nature. La psychiatrie, c'est on a besoin social. On a besoin de quelqu'un qui mette des tampons sur des papiers. Donc, inventez-nous du blabla, racontez-nous des trucs, mettez-vous des costumes, donnez-vous des noms, des titres, faites vos trucs. On s'en fout, mais moi, je veux un tampon sur mon papier. Et donc, l'idée, c'est ça. Et donc, comme on est dans des trucs qui sont extrêmement sociaux, l'idée, c'est de se dire, si quelqu'un en face de vous dans le discours met l'emphase sur le caractère politique de sa recherche, vous pouvez à quasi coup sûr savoir, vous dites que vous êtes dans le cadre d'une recherche minoritaire, quelque chose de militant. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça peut être ce qu'on nous dit sectaire quand on n'aime pas. Mais je veux dire, en tout cas, quel qu'en soit, c'est apparemment politique. Et quand vous avez une recherche qui est dépolitisée, eh ben, du coup, en fait, elle est aussi politique. C'est juste qu'elle est du côté dominant. Et donc les gens qui viennent vous parler de neurotransmetteurs, de cerveau, de molécules, d'inflammation, de machin, de trucs comme ça, en fait,
Ah, voilà.
ils viennent vous parler de ça et c'est hyper intéressant. Mais pendant ce temps-là, ils viennent pas vous parler d'autre chose. Et donc du coup, la question post-constructiviste, c'est de dire pourquoi ça et pas autre chose? Pourquoi vous me parlez de neurotransmetteurs, du récepteur GABA, dotamine, machin, truc? Enfin, je veux dire. Vous vous rendez compte? Bon, moi, j'ouvre les yeux et je vois qu'on est dans une société hyper inégalitaire avec des gens qui crèvent de faim dehors. Et vous me parlez du récepteur GABA. Comment vous faites le lien? Et en fait, c'est ça la question. Parce que pendant qu'on passe du temps à chercher sur toutes ces conneries, on passe pas du temps à chercher sur autre chose. Et ça, moi, je peux le dire, je suis trans. Et comme je suis trans, on est extrêmement victime de ça. C'est-à-dire qu'en question de trans, nous, on n'a pas la chance des personnes folles, parce que autant les personnes folles attirent le fantasme des psychiatres, hein, les psychiatres qui des fois ils se lèvent à 2 heures du matin pour écrire un truc sur les personnes folles, ça les fascine quoi, ils sont omnibilés. Autant nous les trans c'est vachement moins intéressant, donc on a vachement moins de volume de publications. Et en plus de ça, la majorité des publications qu'on a, elles sont sur des trucs inintéressants, mal posés et nul à yèche qu'on peut foutre à la poubelle juste en lisant le titre. Et c'est voulu. Parce que pendant qu'on passe des budgets et du temps à faire des recherches inutiles à la con, on passe pas ce temps-là à poser des questions plus intéressantes. Et l'idée, c'est de comprendre les enjeux comme ça. Et donc, en fait, quand on se dit, la psychiatrie, elle est rentrée dans ma tête, elle est rentrée dans ma tête de manière assez simple. Elle est là dans la société, la psychiatrie. Elle est l'émanation normale de la société. Elle marche normalement, elle fonctionne bien et la société fonctionne plutôt pas trop mal. Je veux dire, elle est dans la société. C'est comme le sexisme. Il est dans la société. Donc, le sexisme, il est dans ma bouche à partir du moment où je vis dans cette société. Donc, si je veux que le sexisme soit plus dans ma bouche, si je veux commencer à ne plus me lire et à plus lire les autres avec une grille psychiatrique, je suis obligé de déconstruire ce truc-là. Et ce truc-là, il a des ramifications énormes dans ma vie. Et donc, du coup, en fait, c'est pas juste une question de comment est-ce qu'on parle. De dire un trouble psychique ou de machin chose, c'est une question de se dire, ok, si je ne veux plus utiliser le concept, tu vois, là tout de suite, tu es dans mon salon, tu es en train de hurler, tu ne te contrôles pas, tu es en train de péter mes verres par terre, et je ne veux pas que dans ma tête, il y ait une seule pensée qui te considère folle. Je veux te considérer légitime en tout état de fait, là tout de suite. V'là le bazar que c'est d'arriver à faire ça légitimement dans une vraie situation de vie. C'est ça qui est difficile. C'est à quel point c'est ancré à l'intérieur de quelque chose de global. Moi, je pense que quelqu'un qui est intéressant pour faire des parallèles, c'est mon orthophoniste. Alors qu'il n'a pas forcément fait du bon boulot, comme vous pouvez l'entendre, mais au-delà de ça, mon orthophoniste, elle s'est mise à bosser avec les personnes trans. Et Un peu par un challenge, hein, parce qu'elle n'a pas du tout été formée, comme tout le monde. Et puis parce que, en fait, il y a eu d'un coup un besoin, il y a un projet qui s'est monté. Et elle se dit, vas-y, moi, 95% de mon activité professionnelle, la rééducation de voix de personnes trans, j'y connais rien, personne n'a jamais fait, j'adore, j'y vais. Elle y est allée. Ok, elle y est allée. Et en fait, côtoyer des personnes trans à ce volume-là, elle qui était une personne cis hétérosexuelle, ça a remis en cause beaucoup de choses dans sa tête. Ça a déconstruit beaucoup de trucs. Elle s'est réinterrogée beaucoup de fois sur son histoire, sur comment elle vivait, des choses comme ça. Et quand vous discutez avec, entre-temps, elle a divorcé, elle s'est remariée, elle est toujours hétérosexuelle et cisgenre, hein, pas tant de contamination que ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont été déconstruites en termes de comment est-ce qu'elle se conceptualise, comment est-ce qu'elle vit et comment est-ce qu'elle positionne les choses. C'est des tout petits morceaux qui ramifient sur des très gros morceaux de société. C'est renoncer à un pouvoir énorme d'arrêter de pouvoir qualifier l'autre personne en face de folle. Parce que si vous dites à la personne en face qu'elle est folle, le seul truc qui vous reste après, c'est deux, trois petits coups pour que ça colle sur sa tête et après, c'est gagné. Et c'est quand même énormément utilisé. Normalement, c'est notamment énormément utilisé dans la misogynie. Enfin, je veux dire, tout le monde sait très bien que pour gagner une argumentation face à une femme hétéro cis, globalement, ce qu'il faut faire, c'est un tout petit peu de provoque. Elle commence à s'énerver, lui dire qu'elle est hystérique et t'as gagné. Enfin, je veux dire, c'est le move classique. Tout le monde le connaît, c'est facile. Moi, je l'ai vu faire dans des réunions à des niveaux d'instance très différents, mais tout le monde le maîtrise, quoi. Et donc, du coup, si jamais vous dites, OK, merde, c'est-à-dire que vous perdez aussi l'hystéro, quoi. Enfin, je veux dire, quelque part, si vous voulez plus considérer vos proches en termes de maladie mentale, vous pouvez plus être autant misogyne qu'avant, ça pue. C'est quand même utile, la misogynie, c'est pour ça qu'on l'a. Et donc, du coup, il y a quand même cette idée de se dire que c'est quand même une ramification globale. Et donc, c'est cette idée de se dire qu'en fait, ça, c'est un combat qu'il faut comprendre comme étant un combat global. Ou si on veut prendre des mots un peu plus modernes, intersectionnel. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'en fait, nous, on a cette conceptualisation qui est découpée par morceaux. Avec les femmes, les folles, les personnes de couleur, les machins, les bidules. Mais la société et le monde, ils fonctionnent pas comme ça. Fondamentalement, la société, elle en a rien à battre que vous soyez de telle case ou de telle case. Si elle veut que vous dégagiez, elle trouvera une case pour vous faire dégager. Et s'il n'y en a pas, elle en mettra une et vous dégagerez. Donc, fondamentalement, c'est une mécanique de système, c'est une mécanique d'oppression. C'est pour ça que les gens qui travaillent dans une logique post-constructiviste, ils parlent de système d'oppression. Ils parlent de système d'oppression parce qu'ils parlent de gens, de groupes qui ont de l'emprise sur d'autres groupes. Et déconstruire des logiques d'oppression, c'est pas juste déconstruire la logique d'oppression de la psychiatrie, mais c'est déconstruire la logique d'oppression et différentes instanciations qu'elle a. Parce que quand il s'agit d'enfermer les gens dans des asiles ou quand il s'agit de les parquer dans des trains, les gens ne découpent pas. Et pourtant, ce que vous voyez en pratique, c'est que les luttes politiques, elles sont découpées. Les personnes travailleuses du sexe militent dans pour leur chose. Les personnes trans militent de leur côté. Même nous, au sein des LGBT, on a du mal à avoir une vision unie et un combat qui est uni. Les personnes handies militent de leur côté. Les personnes folles militent de leur côté. Et du coup, on a cette espèce de découpage des gens par population qui vont aller trouver des solutions uniques et innovantes à un problème qui est commun. Et donc, du coup, c'est pas très, très logique. Et donc, fondamentalement, la réponse la plus évidente sur pourquoi est-ce que je conceptualise ma propre vie en utilisant la psychiatrie, c'est parce que je suis pas très forte et que c'est beaucoup de boulot et que c'est fatigant. Et comment est-ce qu'on pourrait faire une alternative? Bah, faire une alternative, c'est construire une herméneutique. Ça veut dire, c'est construire d'autres façons. C'est construire une autre histoire. C'est que là, tout de suite, tu es dans mon salon en train de péter un câble et de péter tous mes verres par terre, mais j'ai une autre histoire sous la main que de te traiter d'hystérique. J'ai une autre façon de voir le monde. Et ça, je peux le faire à un niveau interpersonnel. Et on le voit beaucoup en psychiatrie. Je fais appel à mon empathie. Et là, tout de suite, je me dis que tu es une personne. Et moi aussi. Et enfin, toutes ces histoires de là. Et, oh, une nuit, j'ai discuté avec un infirmier psychiatrique. Et on parlait vraiment comme deux personnes. Et c'était super. Enfin, on fait ça. Et on le fait à une échelle interpersonnelle. Mais on n'arrive pas à le faire à une échelle de système. C'est-à-dire le faire de manière automatique en termes de pensée. C'est de se dire, OK, en fait, automatiquement, les gens sont des gens. Ça paraît con, hein, mais quand vous êtes une personne comme moi qui bosse par exemple sur un concept comme le genre, bon, moi je peux vous expliquer que le genre c'est de la fumisterie et que c'est de la connerie et que c'est juste pour vous vendre des conneries capitalistes et vous faire faire la vaisselle. Mais et régler qui fait la vaisselle et qui doit se faire shooter par les bagnoles. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, on sait que c'est stupide, mais c'est très très différent de comprendre que c'est stupide ou de comprendre que ça a des limites et d'arriver à voir une personne dans sa vie de tous les jours sans tout d'un coup dans sa tête faire pas appel à ça. Sans se dire c'est un monsieur, c'est une madame. C'est pas facile. Vous avez grandement changé votre vision du monde quand vous commencez à arriver spontanément et à dire, c'est une personne qui. Je vais te raconter l'histoire de cette personne que j'ai rencontrée l'autre jour et vous papotez pendant une demi-heure et à la fin, la personne en face, elle ne sait même pas si c'est un monsieur ou une madame. Ça vous arrive souvent, ça? En vrai, quand vous parlez des gens, vous allez voir qu'à la fin, les gens, ils savent si c'est un monsieur ou une madame, ils savent le diagnostic, ils savent l'orientation sexuelle, ils savent les machins, ils savent les bidules, ils savent les trucs, ils savent les... Et donc, du coup, arriver à déconstruire ces trucs-là, c'est arriver à se dire comment est-ce que je peux faire en sorte de ne pas utiliser cette lecture-là du monde et donc, du coup, par essence, comment j'utilise une autre lecture du monde. Alors, la lecture du monde la plus à propos, en tout cas la plus chopable qu'on utilise beaucoup dans les milieux militants, c'est ce qu'on appelle les droits humains. Hein, les droits humains, c'est tout un ensemble de textes et de façons de penser les êtres humains qui se sont vraiment cristallisés à la suite de la Seconde Guerre mondiale, même si c'était déjà présent avant, et qui sont dans cette idée de se dire qu'ils vont présenter une autre conceptualisation, une autre façon de voir le monde. Mais c'est vraiment des questions de façon de voir le monde. Et en fait, j'espère que mon blabla, il met ça en évidence. C'est-à-dire que, en fait, c'est une façon qu'on a de comprendre, et en fait, c'est un mécanisme historique où on passe d'une vision essentialiste, qui servait à quelque chose, à une vision beaucoup plus systémique, qui sert toujours quelque chose, mais on a évolué de ce côté-là. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde suive ce truc-là? Si vous prenez le débat sur le genre, notre enjeu en ce moment au niveau politique sur les questions de genre, et quand je dis notre enjeu, c'est pas moi en tant que personne trans, hein, c'est moi en tant que chercheuse universitaire, on s'en fout que je sois trans. Le concept de genre, c'est un concept qui a 50 ans. Ce serait cool que la population générale puisse l'utiliser correctement parce que c'est chouette quand la recherche, elle arrive dans la population générale, on peut travailler sur des trucs. Et le concept de genre, c'est intéressant. Mais l'enjeu principal à l'heure actuelle, il est extrêmement compliqué et il est extrêmement chargé médiatiquement. Parce que vous avez une grande partie des gens qui veulent utiliser ce concept-là pour construire leur vision du monde, et vous avez une partie des gens qui ne veulent pas. Et du coup, vous coincez là-dessus. Et vous avez la même opposition quand vous allez regarder la question de la psychiatrie. Vous allez avoir des gens qui vont garder cette vision-là du monde. Il y a des fous dangereux qu'il faut enfermer, il y a des malades qu'il faut soigner, il y a des machins et des bidules, et vous avez une partie des gens qui vont pas vouloir garder cette vision-là du monde. Et en fait, ce qui fait que vous pensez de telle ou telle façon, ou qu'il y a des savoirs qui se font de telle ou telle façon, c'est ces équilibres politiques-là. C'est-à-dire qu'en fait, on aura des savoirs alternatifs en psychiatrie quand on aura décidé d'arrêter ces conneries-là. Et on aura décidé d'arrêter ces conneries-là quand il y aura eu un changement dans la dynamique de pouvoir. Et c'est ça le principe, en fait, de la question de la lutte politique, et c'est de comprendre qu'en fait, l'humanité, depuis des millénaires, elle est structurée sur des logiques d'oppresseurs-oppressés, et que si chaque instance d'oppression crée des savoirs, et que ces savoirs, ils se transmettent dans l'humanité, et qu'au fur et à mesure, la situation, elle change. Et qu'au bout d'un moment, on aura changé cet équilibre-là. Et la volonté de différents nouveaux paradigmes, c'est celle-là. Donc, du coup, par exemple, si vous prenez, qu'est-ce que ça fait au savoir psychiatrique une notion comme le rétablissement? Bah, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait grave chier. Quand je dis le rétablissement, je parle le rétablissement au sens Judith Chamberlain, survivant de la psychiatrie années 70, pas au sens le rétablissement maintenant. Le rétablissement de l'époque, c'était quoi? L'idée fondamentale, c'était de dire, en fait, on n'est pas incurable. Voilà. C'est juste ça. Le seul problème du rétablissement, c'est pas incurable. Je peux aller bien. Je peux mener une vie exceptionnelle. Et vous vous dites, putain, quelqu'un découvre ça, il va voir les psychiatres, tous les psychiatres devraient sauter de joie. Merde, ça y est, c'est super. Enfin, je veux dire, moi, je suis désolé, mais vous allez voir les collègues qui s'occupent des gens qui ont une chorée de Huntington, et tout d'un coup, vous arrivez en disant, hey, il y a des gens avec une chorée de Huntington qui ont réussi à avoir une vie normale et heureuse et qui vont bien. Bah, je pense que les collègues, ils sont contents. Les psychiatres, ça les a fait grave chier. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué pendant 30 ans. Puis après, ça a commencé à rentrer dans les politiques publiques par de l'activisme politique. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont bloqué. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils se le sont réappropriés, ils ont vidé de sa substance et ils ont mis le mot sur autre chose. Parce qu'ils n'en veulent pas. Et s'ils n'en veulent pas, c'est pas parce que c'est des monstres. S'ils n'en veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le prendre. Il n'y a pas la place dans la psychiatrie pour ce concept-là. Vous pouvez mettre le mot, mais vous ne pouvez pas mettre le concept. Parce que le concept de rétablissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas folle. Je suis dans un système qui ne fonctionne pas, et si j'agis sur mon système, je peux aller mieux, et je peux aller bien, et je peux avoir une vie cool. C'est pas possible en psychiatrie, ça. Ça va contre la base de la logique. c'est pas diluable dans la psychiatrie, cette approche-là. Et donc, du coup, parce que c'est antinomique avec l'idée de base. Enfin, je pense que c'est assez. Par exemple, si vous vous dites, bah moi, j'ai une super façon qu'on puisse tous vivre heureux ensemble, et ça passe par une immigration massive. Eh ben, vous n'allez pas arriver à convaincre le Rassemblement national de cette idée. Vous pouvez, et ça sera peut-être cohérent, mais ils l'apprendront pas. Et ils l'apprendront pas parce que c'est pas soluble dans le reste. Ça va se précipiter. Il y a un truc qui ça va coincer, quoi. Et donc, du coup, cette notion-là, elle est coincée. Et donc, du coup, c'est important de comprendre que les pensées psychiatriques, elles sont toujours construites sur cette idée-là, que c'est incurable et que c'est héréditaire. Et ce qui est intéressant, on peut aussi, je blablate, hein, faut vraiment me couper, hein, parce que moi, je raconte ma life là sur, enfin, ça me va, c'est un samedi soir cool, mais.
Ouais, ouais, on a plein de choses en même temps, donc je pense que personne veut te couper. Hein. Moi, je suis toi, mais voilà.
Bah écoute, au cas où. Ouais. Et donc la question héréditaire, c'est une question vachement intéressante, la question héréditaire en psychiatrie. Je veux dire, on sait que c'est héréditaire depuis le 19e siècle, et on sait que ça ne l'est pas depuis 50 ans. Et les deux existent encore, c'est génial. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on a défini que c'était héréditaire. On a défini que c'était héréditaire parce que ça allait avec la logique. Les gens dégénèrent. Donc comme les gens dégénèrent, ils auront des enfants dégénérés. Enfin, je veux dire, c'est évident, un lapin ne fait pas des poules, quoi. Et donc, du coup, il y a une logique. Il y aurait quand on a biologisé, bah, c'est devenu encore plus évident que c'était génétique, enfin, que c'était héréditaire puisque c'est biologique. Et après, on a découvert la génétique et on s'est dit, bah, c'est là. Et on a fait plein de recherches en génétique. Et la conclusion de 30 ans de recherche en génétique, c'est des méta-analyses qui vous écrivent noir sur blanc. La conclusion de 30 ans de recherche en génétique en psychiatrie, c'est qu'il n'y a pas de substrat génétique aux maladies mentales. Voilà, on a fait 30 ans de recherche et le seul truc qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait rien. Mais c'est pas grave parce que maintenant on recherche sur l'épigénétique. Et on vous écrit des particules hyper intéressants pour vous expliquer comment les abus dans l'enfance, ça fait des méthylations du chromosome C412 avec des machins, des trucs, et que du coup, ces méthylations-là, elles peuvent être transmises de manière héréditaire au niveau de l'ADN mitochondrial, de machin chose, etc. Et donc, en gros, tout ça, c'est pour vous dire que là, tout de suite, si vous êtes angoissé, c'est parce que votre beau-père se faisait tabasser quand il était gosse. C'est vachement pertinent de savoir ça. Moi, je suis vachement contente de savoir ça. Je suis angoissée parce que mon beau-père se faisait tabasser quand il était gosse. Ben, merci, docteur. On s'en fout. En fait, la réponse est une réponse à une question que personne d'autre que les psychiatres ne pose. Les psychiatres posent toujours la question en termes d'origine de troubles. Il faut trouver un substrat, il faut trouver une source, il faut trouver une cause, il faut trouver quelque chose. Et donc, du coup, parce que c'est une question que la psychiatrie se pose. Parce qu'elle a besoin de ce quelque chose pour justifier qu'en 1880, on soit passé full biologique. Parce qu'on est passé en hypothèque, en fait. Hein. En 1880, ils ont dit, ces gars, c'est biologique. Enfin, on croit. Et en 2022, on est en train de dire, bon, on croit toujours, mais on n'a rien trouvé depuis. Bah, littéralement, on n'a rien trouvé. Et les seuls trucs qu'on a trouvés, c'est, ça a fait sortir de la psychiatrie. On a trouvé l'épilepsie, on a trouvé, enfin, je veux dire, c'est sorti de la psychiatrie, mais par définition, on n'a toujours pas la racine biologique. Et donc, le biologique en psychiatrie, c'est une des grosses hypothèses. Et donc, quand vous avez c'est un postulat, en fait. C'est-à-dire que toute la psychiatrie est construite sur le postulat qu'il existe des maladies mentales et qu'elles sont biologiques. Et tout ce que vous allez amener qui ne rentre pas là-dedans ne marche pas. Si vous arrivez vers les gens en disant « Le rétablissement, c'est une approche alternative qui permet de prendre en compte la personne dans son environnement et se dire qu'en fait, on a du pouvoir d'agir sur sa vie. » Par contre, si vous arrivez en disant « Le rétablissement, c'est une méthode pour accompagner les déficiences des personnes qui ont un problème incurable biologique, génétique et qui va permettre de travailler sur les aspects sociaux de leur vie pour leur permettre une intégration dans une vie sociale épanouie avec une pleine citoyenneté, un travail, des loisirs, une femme, 1,9 chien, enfin des trucs comme ça. » Et ben du coup, vous arrivez et là, ça marche parce que là, ça prend. Parce qu'il y a de l'hameçon en face, il y a de la matière, ça, c'est soluble. Parce que vous n'avez pas remis en cause l'hypothèse fondamentale. Et de toute façon, quand vous interagissez avec un psychiatre, ça se sent, cette hypothèse fondamentale-là. Et de manière encore plus évidente, quand vous interagissez avec une ou un psychiatre qui n'est pas essentialiste et qui pense que les gens existent dans des systèmes, ça vous pète aux yeux en général. Parce que tout d'un coup, la personne, vous voyez bien qu'elle bricole avec ce qu'elle vous raconte. Ouais, Yann, et vraiment, coupez-moi. Hein.
Une question, Anna. je comprends ce que tu dis quand tu dis que ça prend pas effectivement si tu présentes le rétablissement comme ça en psychiatrie, c'est tout à fait logique. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait que ça prend pas auprès d'une femme non plus?
Alors, je vais pas parler spécifiquement de l'UNAFAM, parce que je vais pas me lancer dans une analyse systémique là-dessus. Ce serait pas très fair-play de ma part, parce que j'ai pas vraiment fait le travail de débroussaillage. Cela dit, je me suis intéressé aux prises de décision politique de l'UNAFAM dans mon parcours, une fois de manière assez emblématique, qui était sur la question de la loi de 2011, et notamment le plaidoyer en faveur des programmes de soins. Et je pense que ça répond à la question, c'est-à-dire que si tu vas sur Internet et que si tu googles la prise de position de l'UNAFAM par rapport au programme de soins avant la loi de 2011, donc le contexte, la loi de 90, qui est la loi pour interner les gens, qui a fait suite à la loi de 1838, il n'y avait pas eu de réforme entre 1838 et 1990, et ils font une loi en 1990 parce que la loi de 1838 était datée et, et contraire à la Constitution, et pas de peau, ils se sont trompés en l'écrivant, elle était contraire à la Constitution aussi. Du coup, ils devaient la refaire. Et du coup, vraiment pas de peau. Enfin, je veux dire, il l'a pas vu venir, quoi. Et donc, du coup, ils doivent la refaire. Et quand ils doivent la refaire, c'est l'occasion de dire, hey, on peut mettre des trucs. Et donc là, plaidoyer de l'UNAFAM en faveur de la mise en place des programmes de soins, c'est-à-dire des obligations pour les gens de voir pointer et piquer. Et c'est surprenant. Tu vois, parce que quand tu connais pas le truc, tu te dis, bon, alors attends. L'UNAFAM, c'est les alliés, hein. Tu vois, et là, tu te plantes, tu dis, mais non, c'est pas les alliés. Et donc, du coup, tu comprends que globalement, on est dans des relations politiques et que dans des relations politiques, les gens, ils ont des enjeux. Et de toute façon, en santé mentale, je pense que quel que soit le pied vers lequel tu mets ton expérience, tu as bien compris que ton enjeu en tant que proche, c'était pas l'enjeu ni de la personne psychiatre, ni de la personne étiquetée folle. Hein. Je veux dire, clairement, c'est le bon, la brute et le triangle. Hein. C'est le triangle, le truc. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout les mêmes intérêts. Et donc, du coup, mais ça, c'est aussi un truc, c'est un truc qui est compliqué. Enfin, je veux dire, la famille, elle est là pour incarner le poids normatif. Voilà. C'est la définition de la famille. C'est-à-dire que dans ta famille, tu peux avoir des gens qui sont cool, mais ta famille n'a pas le droit d'être cool. Sinon, ta famille est folle. Ça, si tu bosses en pédopsie ou que tu passes en pédopsie, tu vas le voir, le concept de la famille folle. La famille folle, c'est la famille qui valide un comportement fou. Donc, par définition, ta famille, elle est en opposition. Tu vois, on l'a bien vu par exemple pour les personnes homosexuelles, la différence entre il y a 40 ans et maintenant sur la position familiale. Tu vois, maintenant, tu dois te positionner en faveur de ton enfant, a priori. En tout cas, ça dépend de tes milieux sociaux, mais les milieux sociaux, tu dois. En tout cas, c'est un peu mieux. Mais c'était très très bizarre de le faire avant. Il y a 40 ans, c'était pas attendu. C'est pas ça qu'on attendait de toi. Et quand tu étais une famille et que tu le faisais ça, tu le faisais discrètement. Ou en tout cas, c'était pas l'histoire que tu racontais. Une famille, elle joue sa position en tant que famille et il faut un enjeu de pouvoir assez fort pour avoir ta famille de ton côté. Parce que si, tu vois, moi par exemple, j'ai pas ma famille de mon côté. mais si je voulais arriver en disant, hey, je suis taré et ma famille soutient, ça veut dire que concrètement, la personne ou les personnes de la famille qui font ce bon-là socialement, elles prennent le risque d'être étiquetées en tant que famille de fous et que toute la famille dégage. Et ça veut dire que toute l'injustice épistémique, tout le malaise, toute la maltraitance que toi tu reçois, quand tu vas demander l'aide de ta famille et le soutien de ta famille, elle prend le risque de te la prendre aussi dans la figure. Tu vois. Un exemple assez simple, ça, parce qu'il faut comprendre que c'est vraiment les mêmes mécaniques, qui des fois sont pas instanciées pareil, mais c'est les mêmes mécaniques. Quand tu es une personne cis et que tu te mets en relation avec une personne trans, tu vas prendre de la transphobie dans la gueule. Parce que ton copain, ta copine ou autre est trans. Tu vas t'en prendre dans la figure. Dire, c'est tellement un phénomène que dans certains groupes sociaux, les gars tuent leurs copines trans pour laver la honte auprès du groupe. Et donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment le lire comme ça. C'est-à-dire de se dire, il ne faut pas oublier qu'on joue avec des systèmes d'oppression. Il ne faut pas oublier qu'on joue avec des représentations. Et les représentations, c'est la façon qu'on a de bake les systèmes d'oppression à l'intérieur des gens. Donc les gens de ma famille, ils n'ont pas forcément fait tout ce boulot de déconstruction sur les choses, ils n'ont pas forcément ce regard-là sur la vie, et donc du coup, ils partagent peut-être pas ma vision des choses, et quand bien même ils la partagent, ils prennent un risque en s'exposant vis-à-vis de moi. Alors c'est ce qui crée des liens très forts quand on a cette personne de la famille qui reach out et que du coup, on a cette personne qui a énormément de valeur symbolique tout d'un coup. Parce que cette personne, elle est OK pour se griller, prendre le risque de traîner avec des tarés. Mais c'est pas demander ça à toute la famille, c'est compliqué. Mais alors, est-ce que c'est légitime d'attendre ça d'une instance qui représente les familles, c'est-à-dire qui représente la règle, pas l'exception? Je pense qu'on peut assez légitimement se dire que dans tous ces combats-là, les familles, quand elles sont instanciées en tant que « je suis là pour représenter les familles », elles sont toujours du côté conservateur. Tu prends le mouvement LGBT, les familles, elles sont du côté conservateur. Enfin, je veux dire, les initiatives qui ne sont pas conservatrices, c'est des initiatives partagées, familles, personnes concernées. Tu vois, de dire on crée un truc ensemble pour se fédérer et se protéger parce qu'on est suffisamment nombreux, vous ne pouvez pas nous attaquer. Mais famille, point, sans personne directement concernée. Tu vois, personne trans, on n'a pas une herméneutique qui est très posée, on n'a pas une histoire qui est totalement partagée dans la société. C'est un peu compliqué, un peu miné comme terrain. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes trans en France qui feraient confiance à une association uniquement composée de proches pour porter l'agenda. Enfin, soyons honnêtes, non. Moi, je ne fais pas confiance aux gens, et c'est pas parce que je pense qu'ils sont vils, je pense que c'est simplement ils sont trop loin du sujet ou ils ont une vue qui est très partiale, et eux ils, ces personnes là elles sont expertes à porter leur point de vue, mais leur point de vue n'est pas mon point de vue ni forcément soluble en l'occurrence, et il y aura probablement des moments où on est d'accord et des moments où on n'est pas d'accord. Par exemple, une femme, t'arrives à les avoir comme alliés quand tu dis il faut pas torturer les gens, ils sont là et ils disent bah ouais, il faut pas torturer les gens, tu vois, donc tu peux les avoir partiellement comme alliés. Mais tu peux pas les avoir parce qu'en fait, ouais, mais ils nous font chier. Je veux dire, ça fait des années qu'on essaye de chiffrer le nombre de demi-journées par semaine que ça nous prend nos proches. Parce que c'est un fardeau. Ça, tu vois, c'est l'une des pierres fondamentales de l'UNAFAM. Et donc, du coup, quand tu as cette pierre-là, bah, tu sais, là, tu peux pas la bouger. Elle est là, quoi. Enfin, c'est une clé de voûte. Tu t'enlèves ça, ça te casse la gueule, quoi. Donc, faut laisser celle-là, quoi. Et donc, du coup, tu peux composer autour de cette idée-là. En tout cas, voilà comment moi je répondrais sur la question de l'UNAFAM. Parce que la question des programmes de soins, les programmes de soins, c'est deux trucs. Les programmes de soins, c'était une obligation de soins et une torture. Et dans l'argumentaire de l'UNAFAM, il n'y a pas le côté torture. C'est-à-dire que l'UNAFAM n'écrit pas au ministère en disant « s'il vous plaît, maltraitez nos proches ». Ils écrivent en disant « s'il vous plaît, traitez bien nos proches ». Mais traiter bien nos proches, c'est une abstraction pour dire « médiquez-les et mettez-les dans le système ». C'est-à-dire quelque chose, il faut que ça fonctionne. Et donc, du coup, il y a une sorte de truc où tu te dis, bon, alors, soit c'est très naïf, c'est-à-dire que ces gens pensent vraiment que la psychiatrie est là pour soigner les gens, mais non, enfin, soyons honnêtes, non. Enfin, je veux dire, tu peux arriver là, mais enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui sont nés hier, et c'est pas une association qui est née hier, donc les gens ont bien compris comment marchait le système. Donc, ils savent que le système, la psychiatrie, c'est pas un système de soins, ils savent que la psychiatrie, c'est un système de régulation sociale. Et donc, du coup, ce que l'argumentaire est de dire, on veut que vous réguliez, mais que vous le fassiez humainement. Tu vois, et c'est un argumentaire assez commun qu'on a en psychiatrie. C'est comme les gens qui vont te dire il faut faire de la contention éthique. Enfin, je veux dire, il y a une logique, quoi. C'est il faut moins contentionner. Nous, on le fait moins. On a mis en place plein de trucs super bien pour contentionner de moins en moins. Et t'es là en train de dire non, mais ça va pas. Il faut pas le faire. Je veux dire, c'est déjà techniquement, c'est un peu illégal. Enfin, on peut jouer sur les trucs et tout. Puis t'es en train d'attacher un autre être humain, ça va pas. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand t'es en train de sortir cette solution là? C'est que globalement, t'es en train d'improviser normalement. Enfin, je veux dire, c'est clairement pas quelque chose que tu peux protocoliser, quoi. Et donc, du coup, comment ça se fait qu'on peut avoir des gens très bien qui se battent pour la diminution des contentions? Comment ça se fait qu'on peut avoir des gens très bien qui se battent pour, pareil, limiter les internements? Mais pas les interdire, juste les abus. Il faut arrêter les abus. Les abus, c'est le pire. Bon, bah, on sait très bien, de toute façon. On sait très bien que les demi-mesures, c'est de l'absence de changement. On sait très bien que le blabla, c'est juste de l'esthétique. Et donc, si tu veux faire le truc, bon, bah, l'UNAFAM, c'est quoi? C'est une instance conservatrice qui s'est créée parce qu'il y avait un vide de pouvoir. Parce que quelqu'un demande la parole des proches. D'ailleurs, on demande la parole des proches avant la parole des personnes concernées. Donc, globalement, il y a une place à cet endroit-là. Donc, si là, demain, j'arrive et puis je fais Thanos, je claque des doigts et j'efface tout l'UNAFAM de France, dans 3 mois, il y a UNAFAM 2 qui a pris la place parce qu'il y a une place. Donc, il y aura quelqu'un. Cette personne, elle sera écoutée avant. Cette personne, elle a un intérêt qui est structurel et conservateur. Cette personne, elle a 2 positions. Soit elle se met en étant une association militante qui veut que les gens changent et c'est super et elle fera ses trucs avec ses 4 adhérents dans son coin. Elle sera jamais invitée à rien. Soit elle dit, il faut que le système perdure et s'améliore et patatif. Les conneries, et à ce moment-là, elle aura sa place institutionnelle et elle viendra signer les tampons de tous les papiers qu'il faut faire. Et ça, c'est voilà. Et ça, c'est plus une question de culture de milieu militant de dire comment on se positionne. Je vais faire le lien parce que, par exemple, dans la communauté trans, on a cette espèce de clivage un petit peu dans la même idée de se dire qu'on a une partie des personnes trans qui sont plutôt dans ce que nous on appelle du transmédicalisme. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'histoire que raconte la médecine et le corps médical sur les personnes trans. Et on a une autre partie qui est pas du tout d'accord avec ça. Et on a du coup un problème avec les transmédicalistes, c'est parce qu'on a une position, on a globalement un agenda, il n'y a pas, enfin, c'est pas, il n'y a pas un shadow council, on ne se réunit pas le soir pour prendre des décisions, mais je veux dire, de manière assez concertée, la plupart des gens sont dans une position militante anti-système, et d'avoir une partie des gens de notre propre camp qui battent contre nous, c'est frustrant. Et ça veut dire qu'on n'a pas totalement une vision unifiée du truc. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les personnes qui sont dans cette grille-là, souvent, elles ne sont pas à l'intersection de beaucoup d'autres combats. Et c'est-à-dire, tu vois, les personnes transmédicalistes, c'est beaucoup des personnes blanches, des personnes qui ont des moyens, des personnes qui ont transitionné tard ou qui ont une transition qui a été particulièrement avec une esthétique hétéro cis qui fonctionne bien ou qui ont différents critères qui font que les gens arrivent là. Et ce qui est sûr, c'est que la personne que tu récupères par là, c'est pas la personne queer travailleuse du sexe noire, qui, elle, n'est pas dans la logique transmédicaliste. Et donc, du coup, tu as toujours cette espèce de logique de qu'est-ce que tu fais quand ton gros segment, il est là, mais la limite, elle est quand même ici, et les gens qui sont juste là, des fois, ils préfèrent prendre le petit raccourci d'aller là plutôt que de restructurer tout le truc. Et bon, bah, d'un côté, c'est de bonne guerre. Enfin, je veux dire, les gens doivent rouler pour elles-mêmes, donc allez-y, quoi. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Et d'un autre côté, ben, c'est le système. C'est-à-dire... tu vois, si on revient sur la question de l'UNAFAM, bon bah l'UNAFAM c'est pareil, c'est pas méga intersectionnel. C'est-à-dire quand tu rencontres l'UNAFAM, tu te dis pas, oh là là, quel endroit à la confluence de différentes cultures et façons de voir le monde. Enfin tu vois, c'est pas forcément comme ça que tu réagis. Tu te dis plus, merde, clone 412 quoi. Et donc du coup, quand t'es dans cette vision-là, tu vas te dire, bon ben bah, ok, on n'est probablement pas dans quelque chose de très intersectionnel, donc on est probablement dans quelque chose de très très situé. Politiquement. C'est-à-dire que là, il y a un groupe qui politiquement a pris cette décision-là. Et on peut leur jeter la pierre, mais en même temps, on sait, et on sait notamment depuis les nazis, que en fait, quand un groupe occupe une position, c'est pas uniquement une question de responsabilité individuelle, c'est aussi une question d'organisation sociale et de système. C'est-à-dire que l'UNAFAM existe parce qu'on leur demande leur avis. Donc ça veut dire que quand on fait des choses en santé mentale, il y a quelqu'un à un moment qui s'arrête en disant hey, « Eh, est-ce qu'on pourrait avoir l'avis des familles conservatrices, s'il vous plaît ?» Et concrètement, quand les gens font ça, c'est pas pour avoir une donnée nouvelle. Tu vois, tu t'arrêtes pas en disant oh, « j'espère qu'ils ont un point de vue innovant à l'UNAFAM ». Non, tu te dis pas ça. Tu te dis « Ils vont venir appuyer le côté conservateur. Et c'est leur place. Et c'est leur rôle. » Et si demain je les enlève, il y en aura un autre, et il y en aura un autre, et il y en aura un autre. C'est comme si demain, malheureux, demain par bonheur, tous les psychiatres meurent. Bon, bah, je verrai pas ce jour-là, tu vois, parce que je mourrai aussi. Mais je veux dire, si on meurt toutes et tous demain, eh ben, ce sera la joie pendant un temps. Mais si on fait pas gaffe, 6 mois plus tard, il y a les mêmes qui ont juste un autre nom, qui font la même chose et qui signent les mêmes certificats avec les mêmes trucs. Et tu as changé de nom, ça a changé d'histoire, mais la mécanique, elle est là. Donc c'est une question de système. Et je pense que tant qu'on est dans le système actuel, on a ces choses-là. C'est normal, c'est de bonne guerre. Enfin, moi, je leur souhaite vraiment de la réussite à l'UNAFAM parce que ben, ils vont l'avoir, ils sont dedans. Je veux dire, c'est pour ça que tu vas. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pour ça que tu vas dans n'importe quel truc qui travaille avec un gouvernement. Je veux dire, quand tu vas travailler avec un gouvernement. C'est parce que tu as envie de gagner un peu, tu en as marre d'être à l'amende et d'avoir la loose un petit peu, tu vois. Et voilà, tu sais que tu vas gagner, tu vas avoir du pouvoir. Bon, nous, on n'aime pas, parce qu'on aime bien un front commun, et on aime bien la lutte, et puis il y a une esthétique de combat et tout. Bon, à la fin, il n'y a pas de paradis, personne compte les points. Donc si les gens ils veulent trouver leur truc à faire ça, ben, c'est le jeu. En fait, les changements, il y a un gros changement sur comment on se voit en tant qu'être humain qui doit arriver. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. On bossait avec. Je suis dans un programme européen d'accompagnement de personnes transféminines parce qu'on n'est pas une tranche de population qui a beaucoup de soutien et on fait face à un petit peu d'adversité sociale des fois. Et donc, du coup, il y a un programme européen de soutien et on discutait et on se disait quand est-ce qu'on aurait l'équité des droits pour les personnes trans? Et c'était que des activistes de différents milieux, des gens de terrain et tout. Et à peu près, tout le monde devrait être d'accord pour dire que c'est. D'ici 200 ans. Enfin, je veux dire, on vise pas plus tôt que ça. Tu vois? Et quand on réfléchit à comment on va y arriver, on sait bien qu'on va pas y arriver par la lutte des droits trans. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, il faut qu'on s'accroche à une autre lutte et qu'on récupère au passage et qu'on s'intègre dedans. C'est pour ça qu'on travaille l'intersectionnalité. C'est pour ça que moi, je suis un peu gêné en santé mentale, notamment en France, où il n'y a pas eu toute cette démarche qu'il y a pu y avoir comme au Canada, aux États-Unis, ou beaucoup au Royaume-Uni, sur les questions de Mad Pride, les questions de fierté folle, les questions d'alternatives et de construction d'alternatives. C'est qu'en fait, c'est probablement pas des combats qui se gagnent. C'est-à-dire, c'est des aspects de combat. Mais c'est un changement qui est tellement global que le changement, de toute façon, même s'il y avait un groupe qui gagnait, ça changerait la vie de tous les autres groupes. C'est-à-dire que si là, demain, on arrive et on dit, les femmes, c'est pas le même groupe social que nous. Tu vois, autant les personnes trans, les personnes folles, on est globalement dans le même sac. Tu vois. Enfin, je veux dire, moi, mes collègues psy, il y a autant de psy qui me traitent de délirante que je présente trans ou que je présente autrement. On arrive toujours à la même ramification. C'est à peu près le même sac, ces gens dont on veut pas. Mais c'est taré, quoi. Et les femmes, c'est un autre sac. C'est un autre but, c'est un autre réservoir, ça sert à faire du boulot manuel et compagnie, mais la reproduction et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas exactement les mêmes sacs. Mais n'empêche que si demain tu avais une lutte pour l'équité de genre et que tout d'un coup les notions de genre elles disparaissaient, elles sautaient, alors ça a bien évidemment des ramifications pour les gens comme moi, parce que tout d'un coup plus personne m'emmerde, ça y est, y a plus de genre, je suis tranquille, merci, vous avez réglé tous mes problèmes en un claquement de doigts, mais ça aurait des ramifications dans tout le reste. Enfin, je veux dire, tu vois, ne serait-ce que des dossiers comme les questions des agressions sexuelles pour les personnes en situation de handicap ou les personnes institutionnalisées, les questions des rapports de force, les questions de représentation dans le métier. Il y a tellement de ramifications de trucs qui vont changer si on gagne juste ce combat-là que ça aura un effet domino sur tout le reste. Et donc, du coup, l'idée de dire ça, c'est l'idée de dire qu'en fait, c'est pas des combats qui se gagnent. Donc, l'UNAFEM, c'est pas un ennemi. Parce qu'il n'y a pas de combat. Je veux dire, si je peux pas gagner, j'ai pas d'ennemi. Donc du coup, si je peux pas gagner, et si en fait il y a qu'une seule sortie, c'est juste une histoire que je vis. Et l'histoire que je vis, c'est celle-là. C'est la trahison par les proches. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment ça. Hein. L'UNAFEM qui demande les programmes de soins au gouvernement, c'est littéralement la trahison par les proches. Hein, tu vois, c'est dans la tragédie grecque, c'est le moment où t'es là, genre merde, elle a mis du poison sur ma robe de lion. Hein, qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu faible. Et voilà, et c'est épique et on en parle. Et dans l'histoire des luttes, c'est intéressant. Mais c'est peanut, l'UNAFEM, c'est personne. Enfin, je veux dire. Il n'y a rien d'original. Tu prends même des associations de personnes concernées ou des associations usagères qui vont aller travailler avec les systèmes et qui vont avoir ce rôle de token qui met le tampon. Ce n'est pas des ennemis, ils n'ont pas de place. Parce que si demain on les enlève, ils recréent parce qu'ils sont créés naturellement par le système. Il n'y a pas de pensée originale à cet endroit-là. Et c'est tant mieux, et c'est super, et c'est très bien. Et vous allez de toute façon faire ça. Parce que s'il n'y avait pas ces forces-là en face, on aurait gagné. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est une tautologie. Si on dit qu'on veut gagner, c'est la même chose que de dire qu'on n'a pas gagné à l'heure actuelle. Et si on n'a pas gagné, c'est parce qu'il y a les gens en face. Enfin, je veux dire, on peut pas gagner si on n'a pas de. Donc, ça fait partie de l'écosystème du truc. Et l'idée, c'est de se dire quand est-ce que l'humanité, elle va adopter ces changements de paradigme que nous, on a en science. Et pas que en sciences humaines et sociales, hein. Je veux dire, on dit toujours c'est un truc de SHS, de machin, de bidule. Mais non, non, mais dans des vraies sciences bien dures et tout, ils ont les mêmes enjeux que nous. De production scientifique, de rapport à la vérité, de comment est-ce qu'on structure ces choses-là. Et donc, du coup, on a cet enjeu-là en tant qu'humanité, c'est que là, actuellement, on a accéléré énormément la vitesse à laquelle on produit des savoirs. On n'a pas autant accéléré la vitesse à laquelle on les diffuse. Et du coup, en ce moment, c'est le bazar parce qu'il y a beaucoup trop de façons différentes de comprendre le monde qui coexistent. Et là, on pourrait dire que c'est une richesse, mais manifestement, ce n'en est pas une. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de réduire ce truc-là? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de faire en sorte que les anciennes visions du monde, elles disparaissent au profit des nouvelles, parce que c'est ce qu'on voudrait, logiquement. Et puis, elles influencent, mais elles restent pas dominantes, elles avancent, et puis on bouge, et puis on est une humanité, on est souple, on fait des nouveaux enjeux, on se pose des nouvelles questions et tout. Et ça, c'est compliqué. Et donc, du coup, on a probablement un investissement important en ce moment à avoir sur la question de la construction du savoir, de la communication et de la transmission du savoir. Et c'est pour ça que je prends 2 heures un samedi soir pour venir papoter sur mes sujets de recherche, au truc. C'est que, quelque part, il y a cette idée-là, c'est que moi, tout ce que je raconte ce soir, c'est des trucs qui sont acquis depuis 40 ans. Et qui normalement devrait faire partie des objets, des outils que les gens ont au quotidien pour comprendre leur environnement et pour se comprendre. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour des raisons qui sont systémiques et qui sont bien voulues. Hein, je veux dire, essayer d'apprendre la question de genre à l'école, voilà l'opposition que ça. Les systèmes, ils n'aiment pas le changement. Et donc, du coup, autant l'être humain, sur les 50 dernières années, on a beaucoup travaillé sur la place que les systèmes occupent dans les équilibres, autant on n'a pas beaucoup travaillé sur comment changer les systèmes. Comment lever cette homéostasie qui maintient tout à l'identique? Comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Tu vois, dans les années 30 en Allemagne, il y a 1% des médecins qui se sont inscrits au parti nazi. Il y a 1% des gens qui étaient enregistrés comme médecins qui sont allés prendre leur carte au parti. C'est 100 fois la proportion moyenne. Ça veut dire que dans le métier de médecin, il y avait 100 fois plus de probabilité d'adhérer au parti nazi que dans n'importe quel autre métier d'Allemagne. En globalité. Alors que c'est pas intuitif. C'est pas intuitif parce qu'on penserait que le métier de médecin, c'est un métier où il y aurait moins que les autres. Pas plus. Bah, si on lit le code de déontologie, par exemple, et qu'on se dit, oh bah, c'est vrai truc, ça raconte la réalité. On se dirait, bah non, forcément, les médecins, ils vont tiquer. Enfin, je veux dire, ils sont contre ces trucs-là. En pratique, ils sont conservateurs. Ils sont très conservateurs. Là, tout de suite, le parti nazi revient au pouvoir. Est-ce qu'on serait mieux? Moins que 1%, on se situerait où? Et le simple fait qu'on n'ait pas une évidence de réponse, c'est qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris parce qu'on devrait regarder en disant « Ah bah non, plus jamais !» Bien sûr, plus jamais. Je veux dire, on a exterminé que 6 millions de personnes. Enfin, quand on se rende compte quand même, on jetait les personnes en situation de handicap moteur dans les fosses et on les laissait suffoquer. Les personnes folles, on les laissait crever de faim dans les asiles où elles étaient déjà enfermées. Je te raconte même pas ce qui se passait pour les personnes gays, et notamment les personnes gays intersectionnelles, parce que ça valait le coup. Je veux dire, ils ont fait des programmes de réhabilitation pour re-hétéroïser tout le monde, et ils les ont exterminés dans un camp à côté. Et quand je dis ça, c'est pas les nazis venus de l'espace, hein, comme on te raconte dans la vision globale de dire « c'était des monstres, ils sont apparus, ils ont disparu ». Ben non, ce n'était pas des monstres qui sont apparus ou disparus. C'était un système qui est arrivé dans une continuité et qui est vraiment encore dans une continuité à l'heure actuelle. Enfin, il y a quelque chose qui c'est pas venu de nulle part. Cette vision essentielle de dire il y a d'un côté les gentils, de l'autre côté les mauvais, c'est pas bon. Cette vision essentialiste de dire moi je contentionne, mais en fait j'ai des bonnes intentions. Je fais ça pour le bien. Ouais, mais c'est cool que tu fasses ça pour le bien, mais on s'en fout en fait, ça va pas. Sinon, moi je vais te casser le nez pour le bien, tu vas voir. Enfin, je veux dire, c'est trop facile ces systèmes d'intention de dire moi je suis une bonne personne donc je fais des choses bien, eux c'est des mauvaises personnes donc ils font des choses mal. Non, c'est des systèmes. Et comment ça se fait que ces systèmes ils soient là? Ça, c'est des trucs sur lesquels on travaille, mais là où on a besoin de recherche et où on a besoin d'avancer, c'est sur comment on fait changer. Comment on fait changer les comportements des gens? Comment on fait ça? Comment tu arrives à expliquer aux gens, la notion de genre, ça sert personne? Vraiment, parce que les gens que ça sert, la notion de genre, ils sont pas en train de faire une webcam un samedi soir. Ils ont d'autres trucs dans la vie. Tous les gens qui sont dans cette situation-là, c'est des gens qui sont asservis par la notion de genre. On l'a déconstruite depuis longtemps, on l'a posée depuis longtemps, on sait comment faire ça, on sait comment tout organiser. Pourquoi on le fait pas? Et si sur un truc aussi simple que la question de genre, on le fait pas, quand est-ce qu'on va le faire sur la question de santé mentale? Et en fait, on comprend bien que le faire sur les questions de genre, c'est la même chose que le faire sur les questions de santé mentale. C'est juste le faire. Ça veut dire à un moment se dire, il faut qu'on fonctionne différemment. Et tu as vu cette espèce d'espoir là quand le monde était en train de mourir là il y a 6 mois, et où tu te disais, ça y est, les gens vont changer de système. L'ONU porte beaucoup ça, il faut qu'on passe vers un système durable. C'est-à-dire, les variables qu'on a dans le monde, c'est de se dire, au lieu de se dire, il faut qu'on produise une solution face à un problème, il faut qu'on pense les problèmes et les solutions comme étant un continuum et qu'on essaye de faire en sorte que ces choses-là fonctionnent ensemble. Bon, ben ça, c'est ce que l'ONU pousse depuis un temps. Mais c'est clairement pas la position qu'on a choisi de prendre en tant que civilisation. En tant que civilisation, on a choisi de se dire, on va tout cramer, on verra bien, on trouvera bien une solution. on va continuer à faire la même chose qu'avant. Enfin, je veux dire, globalement, c'est ça l'idée. Et les politiques qui guident à l'heure actuelle, c'est ça. Et donc, quand tu réfléchis et que tu dis, c'est sur des enjeux globaux qui touchent tout le monde, comme le genre, comme le transformation climatique et tout, on n'y arrive pas. Bon, ben, ça veut dire que, OK, c'est intéressant notre combat en santé mentale parce qu'il nous permet de comprendre dans une instanciation très spécifique comment est-ce que ces mécaniques-là se mettent en place, et peut-être que cette instanciation-là et cette étude-là, on va trouver des solutions qu'on pourra globaliser et qu'on pourra partager. Mais le changement, il est global, il ne peut pas être juste situé. Tu vois, et ça, par exemple, les gens qui ont théorisé les mouvements, ils le disent bien. Les gens qui ont théorisé les mouvements de la Mad Pride, ils le disent bien. Ils disent bien que, contrairement au mouvement des survivants de la psychiatrie qui venait changer le système psychiatrique, la Mad Pride est un changement politique global. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est pas de dire il faut que la psychiatrie fonctionne mieux, il faut qu'on ait des meilleurs médecins, il faut qu'on ait des meilleurs soins. Ce que tu dis quand tu vas apporter une logique MAD et donc une logique inclusive, c'est que tu vas dire je ne veux plus que l'humanité utilise le concept de folie autrement que pour une esthétique rigolote au pieu. Point. Ça veut dire que ce concept-là n'existe plus dans l'humanité. On n'utilise plus ça. On arrête. C'est ça le combat. Et le combat, il a des ramifications de dingue. C'est qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de réformer le système judiciaire instantanément. Sinon, ça marche plus. T'es obligé de réformer le système, le logement, le machin. Puis tu te dis, mais si on peut plus, si on est obligé d'écouter les folles, ça veut dire quoi la suite? On écoute toutes les femmes? Ben, tu vois, je veux dire, il y a une ramification énorme après en termes de société sur quelles conséquences ça a. Et donc, du coup, cette idée, elle est là. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre et à se situer, de se dire qu'en fait, notre combat en santé mentale, comme notre combat sur les questions de trans ou LGBT, ou nos combats sur les questions de couleur, les questions raciales, les questions de sexualité, etc., ces combats-là, c'est toutes des instanciations d'une même mécanique, et même mécanique qu'on arrive, à laquelle on n'arrive pas à trouver une solution pour des enjeux globaux qui concernent tout le monde et qui sont urgents. Et donc, du coup, on n'est clairement pas dans la découverte de solutions, on est dans le dire comment est-ce qu'on pourrait faire. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment énormément de domaines qui devraient se concentrer à la confluence des mouvements. Tu vois, d'avoir une association de santé mentale qui aille chercher une association de tapettes, ou qui aille chercher une association de personnes handicapées, ou qui aille chercher des associations de travail du sexe, et qui arrive à se dire, qui se disent, OK, qu'est-ce qu'on a de commun? Et qu'est-ce que tu as toi d'unique? Et comment est-ce que je peux transposer ce que tu as d'unique chez moi pour voir si ça marche chez moi? Et voilà ce que j'ai chez moi, et voilà comment ça marche chez toi, et patati patata. Parce que c'est sur cet échange-là et cette construction-là qu'on arrivera à comprendre ce qui est commun et ce qui est spécifique à chaque instanciation. Il y a quelque chose de spécifique à la question des personnes trans, par exemple, par rapport à d'autres personnes folles. Donc, sous-partie des personnes folles, on a quelque chose de spécifique. OK. Mais d'un autre côté, nos thématiques, elles sont les mêmes. Je veux dire, on nous empêche d'avoir accès à notre corps. On nous transforme notre corps de force, on nous empêche d'avoir des familles, d'avoir des enfants, on nous empêche d'avoir du travail, on nous empêche d'avoir un statut social, une existence sociale, on nous empêche d'accéder à la propriété, enfin, je veux dire, c'est à la citoyenneté, à machin, etc. C'est des trucs assez simples, et c'est les mêmes. C'est pas les mêmes explications, c'est pas les mêmes systèmes, mais c'est le même problème. Et en fait, il y a un gain en tant que lutte sociale à se dire, hey, en fait, on ne fait pas une lutte pour le droit à l'avortement. En fait, on fait une lutte pour l'autonomie corporelle. Et dans cette lutte pour l'autonomie corporelle, on a le droit à l'avortement, mais on a aussi le droit à un certain nombre de produits et dispositifs médicaux qui maintenant font partie de l'humanité pour se définir et exister. On n'imagine pas l'humanité sans les contraceptifs, on n'imagine pas, les gens comme moi n'imaginent pas l'humanité sans les traitements hormonaux. Ces trucs-là font partie du fonctionnement de base de l'humanité, on le socle et on le revendique comme étant un droit. Et en fait, c'est un droit global. Parce qu'en fait, si on fait que faire une suite de micro-combats, on fait que déplacer non-stop. Alors, des fois, c'est important quand c'est urgent. Il faut se centrer sur un micro-combat quand il est urgent. Mais sinon, il faut comprendre ce qu'on a de commun. Et ce qu'on a de commun, c'est qu'on ne veut pas que l'État contrôle nos corps. Que ça soit en injectant des neuroleptiques de force dans mon cul, que ça soit en me mettant des cires que je dois faire pour avoir accès à ça, que ça soit en m'obligeant d'avoir je ne sais quel dispositif de santé, que ça soit en balançant mes informations de santé, en m'enlevant le contrôle sur mes informations de santé, parce qu'apparemment, maintenant, c'est ça qui se passe. Je veux dire, tu vois, tous ces combats-là, c'est les mêmes combats. Et donc, c'est les mêmes combats. Et ça, c'est important de comprendre. C'est pour ça, l'idée de mon blabla ce soir, c'est pour ça que j'ai commencé en expliquant de définir les trucs critiques, c'est de comprendre que c'est le même combat parce que ces points sont accrochés ensemble. Si j'en tire un, il y a un fil qui fait que les autres partent avec. Et l'autre truc, c'est que c'est un même combat qui touche différentes personnes. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire, moi, en tant que chercheuse, je kiffe que ça opprime tout le monde. Parce que nous, on galère quand on fait de la recherche à reproduire les trucs pour vérifier que ça marche bien partout pareil. Bon, ben là, je sais. Je veux dire, on empêche les personnes folles de se reproduire, on empêche les travailleurs et travailleuses du sexe de se reproduire, on empêche les personnes trans de se reproduire, on empêche les personnes en situation de handicap de se reproduire. C'est bon, j'ai compris. Il faut empêcher les gens de se reproduire. Merci. Si c'était arrivé qu'une seule fois, j'aurais eu peur que ce soit juste pour ce cas-là. C'est une force, en point de vue de compréhension et de développement des mécanismes et machin, de se dire, hey, les gars, ils ont appliqué le même mécanique 10 fois différente. Je veux dire, c'est génial. Ouais, vas-y.
Non, juste, je voulais proposer, comme je voudrais que, en tout cas, qu'on s'arrête au plus tard à 19h30, je voulais juste te laisser un petit temps, tu vois, pour que si les gens avaient envie de dire quelque chose, de réagir, laisser un petit temps juste vide.
Ok.
Il y a des personnes qui veulent poser une question, et je vais arrêter l'enregistrement à cet endroit-là, comme ça.